Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Vendredi 16 octobre 2020, on écoute le monde changer. Et c'est une très belle nouvelle. Ces derniers temps, faut dire que ça fait du bien. Les Américains retournent sur la Lune, ça on le savait, la mission Artemis. Mais l'Europe sera du voyage, nous serons du voyage. 2024, c'est très bientôt, avec des équipements français de chez Thales, de chez Airbus, qui viennent d'emporter les appels d'offres. Ça c'est l'info, ce qui, à très moyen terme, promet des Européens embarqués. Et évidemment, on pense à Thomas Pesquet. À 7h40, je reçois Jean-Yves Le Gall, président du Centre National d'Études Spatiales. D'abord la science. On va explorer les pôles et la face cachée de la Lune. Ça, c'est essentiel pour la science. Mais il y a des intérêts, vous l'avez compris, économiques, des enjeux stratégiques. Et déjà se prend-on à rêver de conquête de Mars ou de rêver justement de voir Thomas Pesquet fouler le sol lunaire. Jean-Yves Le Gall dans le tête-à-tête Europe Matin. 6h58, oui. Retour sur Terre et retour à la dure réalité du couvre-feu qui démarre ce soir. Ce matin, écoutez bien, nous allons vous emmener en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est sur Terre, mais c'est loin. En Nouvelle-Zélande, ils ont connu, écoutez, deux confinements, des quatorzaines extrêmement strictes, des frontières hermétiquement fermées. Résultat, l'épidémie est maîtrisée. On y circule sans masque, vous allez l'entendre. On y a vaincu le virus deux fois. C'est l'objectif, peut-être, faut-il le rappeler. Vous entendrez ce matin comment beaucoup comptent ruser dans les semaines à venir. Ce matin, zoom sur le secteur de la culture. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, exprime un souhait dans Le Parisien que les tickets des spectateurs les autorisent à rentrer chez eux après 21h. Spectacle vivant, théâtre, concert, opéra, mais aussi cinéma, rideau sur le monde de la culture. Et invité exceptionnel ce matin, Marc Ladret de La Charrière, l'homme d'affaires, l'entrepreneur, PDG de Fimalac. Il possède de nombreuses salles de spectacle. Sa parole est rare, Marc Ladret de La Charrière, au micro de Sonia Mabrouk. Ce sera à 8h15. Voilà quelques éléments du programme ce matin. Il est 6h59. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour mon cher Mathieu, voici que s'ouvre une fenêtre météo pour nous.
Ouvrons la fenêtre.
Vous savez, la fenêtre, c'est la période durant laquelle la météo ne change pas beaucoup. Bien, la fenêtre qui arrive sera une fenêtre ensoleillée. Ce sera pour demain, pour dimanche et lundi. Franchement, ce sera agréable. Alors aujourd'hui, on va ne faire que manipuler l'espagnolette. On ouvre la fenêtre et là, ce sera un petit peu difficile, mais ça s'arrange au fil des heures. Alors, un petit peu de pluie encore en Lorraine, Alsace, Mâconnais, Auvergne et région Rhône-Alpes. Un temps humide sur le nord, la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes et le sud-ouest. Sur Paris, ce sera pas trop mal, ce sera même bien. Sur le littoral de la Manche, des averses ce matin, mais ensuite de belles éclaircies. Sur le littoral atlantique, du soleil. Et sur la Méditerranée, du soleil avec du vent. Les températures aujourd'hui, 10 à Épinal, 11 à Colmar, 12 à Poitiers, 13 degrés à Toulouse et Lille, 14 à Chantilly, à Caen, à Nantes et Paris, 18 à Nice et à Marseille.
On a ouvert la fenêtre. Laurent Cabrol, et c'est bien, paraît-il. Il faut aérer, justement, nous dit-on, pour lutter contre le Covid aussi. La météo, Laurent Cabrol. Merci, Laurent.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour, Hélène Zélani.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
J'ai décidé de créer un nouveau service, un peu à l'américaine. On va ouvrir les restaurants à 18h. C'est plutôt convivial de se venir se faire un plat, un verre de vin et puis on rentre chez soi, quoi.
Trouver des solutions alternatives pour sauver leur établissement, c'est ce que beaucoup de restaurateurs tentent de mettre en place dès ce week-end. Le couvre-feu, c'est à partir de ce soir minuit pour un tiers des Français. Interdiction de sortir sauf sur dérogation et ce sera le retour de la bonne vieille attestation. On vous en expliquera toutes les modalités. 300 policiers, un village totalement bouclé, Guermantes en Seine-et-Marne, revivait hier la disparition de la petite Estelle Mouzin il y a 17 ans, en présence de Michel Fourniret. Il confirme ses propres aveux. Dans ce journal, la fronde dans la région de Nantes contre le géant américain Amazon. Il veut implanter une énorme plateforme logistique. Et puis, comme dit Tintin, on a marché sur la Lune et on va y marcher à nouveau, sans doute, d'ici 4 ans.
Juste après ce journal, les impacts de la deuxième vague qui s'observe déjà sur les marchés financiers. L'éclairage éco de Nicolas Barré. À 2 semaines de la présidentielle ivoirienne, la situation se tend dans le pays. Le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport de Virginie Fulpin. Et puis nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pour quelques 20 millions de Français, c'est donc la dernière soirée avant le couvre-feu. À minuit, tout le monde chez soi.
Et à partir de demain, samedi, ce sera dès 21h. Alors les restaurateurs tentent de s'adapter, de trouver des solutions pour limiter les pertes. Pierre Herbulot a rencontré plusieurs d'entre eux à Paris.
Après les avoir laissés tout l'été dans des placards, Capucine Frère Jean ressort ses kits de livraison.
Tout ce qu'on avait acheté et ce qu'on avait commandé en mai, donc des boîtes, des sacs...
De quoi limiter la perte de chiffre d'affaires, explique la patronne du restaurant Cali Sisters.
Bah, c'est une vraie compensation parce que ce service qu'on perd intégralement après 21h, on va pouvoir je pense, partiellement le compenser en faisant de la livraison pour les gens et les clients autour de nous.
Si on fait un peu de chiffre d'affaires, c'est ça de gagner, quoi.
Georges Menu, propriétaire du Bœuf Maillot et de 5 autres établissements, a choisi, lui, l'option vente à emporter. Mais il croit surtout au rêve américain.
J'avais un souvenir de ce qui se passait aux États-Unis, notamment à New York. Ça m'avait surpris la première fois que j'avais été de pouvoir aller au restaurant à 18h. Donc j'ai décidé de créer un nouveau service, un peu à l'américaine, en disant voilà, on va ouvrir les restaurants à 18h. C'est plutôt convivial de se venir se faire un plat, un verre de vin, et puis on rentre chez soi, quoi. Comme de toute façon, on peut pas faire grand-chose, puisque c'est comme ça. Et on essaie de trouver des solutions.
Certains chefs, même étoilés, envisagent aussi un service continu façon fast-food. De quoi limiter la casse tout au plus. Le chômage partiel devrait encore être massivement demandé.
Un couvre-feu qui concerne Paris ainsi que 8 autres agglomérations. Pas question de sortir entre 21h et 6h, mais avec tout de même quelques exceptions.
Et ça va nous rappeler des souvenirs, Hélène Terzian. Comme au printemps, il ne faudra pas oublier son attestation.
Oui, l'attestation sera mise en ligne dans le courant de la journée sur le site du gouvernement et du ministère de l'Intérieur. Comme pendant le confinement, il faudra la télécharger et si vous avez ni smartphone ni imprimante, vous pourrez la reproduire sur papier libre. Cette attestation, elle sera valable dans plusieurs cas. Pour raisons médicales, si vous allez à l'hôpital ou bien si vous allez acheter des médicaments. Également, si vous rendez visite à un proche en situation de dépendance. Et puis, comme au printemps, il sera toujours possible de promener son chien près de chez soi. Pour ceux qui travaillent de nuit ou qui ne peuvent pas rentrer chez eux avant 21h, il faudra doubler cette attestation d'un justificatif de l'entreprise ou d'une carte professionnelle. En revanche, si vous prenez le train ou l'avion après 21h, le billet vaudra attestation. 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans les zones concernées. En cas de non-respect de ces règles, vous devrez payer une amende de 135€ et à la troisième récidive, cela pourra aller jusqu'à une peine de prison.
Forcément, c'est dissuasif. Merci Hélène. Des exceptions aussi pour les spectacles, c'est en tout cas ce que souhaite Roselyne Bachelot. Ce matin dans Le Parisien, la ministre de la Culture plaide pour un assouplissement du couvre-feu au-delà de 21h pour les cinémas et les salles de spectacle. Le billet servirait alors de justificatif pour rentrer chez soi plus tard.
En tout cas, les derniers indicateurs sont inquiétants. Plus de 30 000 cas positifs en 24 heures, un record. Un taux de positivité à 12,6%, toujours en hausse, tout comme les entrées en réanimation. Alors plus que jamais, le port du masque est fortement recommandé.
Les collégiens le portent depuis la rentrée, le masque, toute la journée. Enfin, ça c'est pour la théorie. Qu'en est-il pour la pratique ? Virginie Riva est allée poser la question dans un collège de Champigny dans le Val d'Oise.
Combien de rappels dans une récré ? Une dizaine de rappels.
Jacquité, assistante d'éducation au collège Elsa Triolet de Champigny. La cour de récré, c'est encore le moment où elle doit faire le plus attention au respect des gestes barrières et au port du masque, plus d'un mois et demi après la rentrée.
On est derrière eux à leur dire que non, il faut le mettre et vous arrêtez de courir, quoi.
Les élèves le reconnaissent, le masque. Ils jouent le jeu en salle de classe. Le problème, c'est dès qu'ils sont à l'extérieur, car là, ils commencent à fatiguer.
Dans la cour de récréation, j'avoue que parfois, je l'enlève.
Quand je parle, je l'enlève. C'est automatique, je l'enlève comme ça. Tac, tac. À chaque fois que je l'enlève, la personne me dit remets-le, donc je le remets direct. Donc du coup, dès que je sors du collège, je l'enlève.
Faire attention à ce qu'il se passe à l'extérieur, c'est le credo de Fatima Marzouki, la proviseure. Dans ce collège situé en zone d'éducation prioritaire renforcée, les rappels à l'ordre sont certes nombreux, mais à ce stade, la proviseure n'a mis aucune sanction pour non-port de masque.
Les élèves qui oublient leur masque, on prend le temps de rappeler chaque famille pour bien les sensibiliser. On investit le parvis, la route, pour les voir arriver sans masque et leur expliquer pourquoi il faut le porter, de penser à donner à sa maman le masque à laver, de le mettre au fond du sac, etc.
Pour l'heure, elle n'a eu aucun cas de contamination déclarée.
Virginie Riva, dans les établissements scolaires, les vacances de la Toussaint commencent ce soir. Les personnels soignants, eux, sont appelés à reporter leur congé. Dans ce cas, ils toucheront une indemnité de 110 à 200€ brut par jour.
7h06 sur Europe 1, le village de Guermantes, en Seine-et-Marne, bouclé jusque tard dans la soirée, 300 policiers mobilisés.
Oui, pour la reconstitution de la disparition d'Estelle Mouzin, il y a 17 ans. Pour la première fois, Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier étaient emmenés sur place. L'objectif était de raviver les souvenirs du tueur en série à la mémoire défaillante. Récit de Gladys Lafitte.
Pendant presque 10 heures, le village tranquille de Guermantes, investi par des centaines de policiers, a retenu son souffle alors que se rejouaient les dernières minutes d'Estelle Mouzin. Un chemin retracé de l'école jusqu'au lieu supposé de sa disparition par les enquêteurs. Accompagnée de Michel Fourniret et de son ex-compagne Monique Olivier, elle s'est même adressée à lui, raconte son avocat Richard Delgenès.
Tu m'as dit que tu l'avais tué, etc. Et donc les deux se sont retrouvés l'un en face de l'autre. Mais Michel Fourniret enlève les yeux au ciel. Et face à ça, aux aveux de Monique Olivier, aux accusations de Monique Olivier, Michel Fourniret reste reste assez taisant.
Taisant aussi sur les conditions de l'enlèvement et de la mort de la fillette, bien que reconnaissant sa responsabilité, Didier Seban est l'avocat du père d'Estelle Mouzin.
On ne sait pas si elle a été enlevée à tel ou tel endroit, mais pour l'essentiel, il a confirmé ses propres aveux. Michel Fourniret, qui même amoindri, continue à ferrailler pour laisser le doute.
Prochaine étape importante pour les avocats de la famille d'Estelle Mouzin, un déplacement avec les deux ex-époux dans les Ardennes cette fois, à la fin du mois, pour peut-être obtenir des éléments pour retrouver le corps de la fillette.
Et puis dans l'enquête sur la mort de Victorine à Villefontaine en Isère, le suspect a été mis en examen pour meurtre précédé d'une tentative de viol. Il a avoué une partie des faits.
Vous êtes sur Europe 1, il est 7h08, écoutez bien, c'est toujours un sujet de débat. Une nouvelle plateforme Amazon qui doit s'installer près de Nantes. Et puis des Européens qui participent au projet de retour sur la Lune. La suite du journal dans un instant.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h09 sur Europe 1, la suite du journal, Hélène Zélani.
Amazon poursuit son développement en France avec hier encore l'inauguration d'un nouveau centre de distribution à Senlis dans l'Oise. En Loire-Atlantique, un autre projet suscite une très forte opposition à Mont-de-Berre, au sud de Nantes.
Le géant américain a prévu d'implanter l'une de ses plus grosses plateformes logistiques dans l'Hexagone sur 14 hectares. D'un côté, on met l'accent sur les 2500 embauches prévues. De l'autre, on dénonce les risques pour l'environnement, mais aussi pour l'économie locale. François Coulon s'est rendu sur place.
L'entrepôt géant de 185 000 m² qui devrait être implanté ici à Mont-de-Berre fonctionnera non-stop, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Embauche prévue considérable. Johan Boblin, président Les Républicains de la communauté de communes de Grandlieu.
On peut monter à 2500 emplois. On a une partie de la population qui est sans emploi ou qui va le perdre dans les prochains mois. Ma responsabilité, c'est de favoriser la création d'emplois dans un contexte de pénurie en matière de ressources financières pour les territoires. L'arrivée de cette entreprise est vraiment une chance.
À gauche et chez les Verts, on tire au canon contre, je cite, cette fausse bonne nouvelle, Mathieu Orphelin, député écologie, démocratie, solidarité du Maine-et-Loire.
Chaque emploi créé chez Amazon, c'est entre 2,2 et 4,5 emplois perdus dans nos PME, dans nos commerces de proximité. C'est une entreprise qui fait des fraudes massives à la TVA, qui ne paye quasiment aucun impôt en France. C'est de la concurrence déloyale face au commerce de centre-ville et de centre-bourg.
Écologistes et zadistes pourraient donner du fil à retordre aux géants américains. Mont-de-Berre, François Coulon, Europe.
Allez, on prend un petit peu de hauteur avec une question qui fait rêver de bon matin. Et si on retournait sur la Lune ?
Oui, ce n'est pas juste un projet, hein, c'est très concret. Il s'agit du programme américain Artemis auquel l'Agence spatiale européenne va participer. Elle vient d'octroyer plusieurs gros contrats à Airbus et Thales pour développer des équipements qui serviront pour les futures missions d'exploration de la Lune. Et c'est presque demain, lors d'Autriche.
On remarchera sur la Lune. Et dans peu de temps, 4 ans d'après la NASA. Oui, on y est déjà allé, il y a 50 ans. Mais cette fois, l'homme explorera les pôles et la face cachée de la Lune. Si le projet est principalement américain, l'Europe, elle, va participer à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Elle va construire le module où vivront les astronautes à l'intérieur d'une station spatiale qui tournera autour de la Lune. Détaille Didier Schmidt de l'Agence spatiale européenne.
Ça permet aux astronautes de vivre plusieurs semaines, un mois, voire plus, on verra, pendant qu'effectivement ils se préparent pour aller descendre sur la Lune, puis remonter, puis repartir. Alors effectivement, on a été sur la Lune, c'est vrai, mais on a été au niveau de l'équateur. Donc ce qui est le plus intéressant sur la Lune, c'est le pôle sud. Vous avez des endroits, des cratères qui n'ont jamais vu de soleil. La Lune n'a pas bougé, entre guillemets, depuis près de 4 milliards d'années, donc c'est un répositoire de tout ce qui s'est passé dans le système solaire depuis ce temps-là.
Et d'un point de vue technologique, aller sur la Lune, c'est une forme d'entraînement pour être capable plus tard de rejoindre Mars. Parmi les plus sérieux candidats européens pour aller sur la Lune, il y a l'astronaute français Thomas Pesquet.
Hélène, vous savez quoi ? On est en exclusivité dans la playlist de Thomas Pesquet ce matin. Fly me to the moon. Ah, j'avais envie de ce Frank Sinatra et ça fait rêver, oui ça fait rêver, retourner sur la Lune 50 ans après les derniers pas de l'homme sur la Lune, nous y retournons, l'Europe s'y joint, la France aussi, mais quel intérêt scientifique, quel intérêt économique, stratégique. À 7h40, c'est un des acteurs du dossier, le président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, Jean-Yves Le Gall sera l'invité du tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré, bon réveil.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h14.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi,
quel que soit son âge.
Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La deuxième vague du Covid est en train de contaminer les marchés financiers. Tous les indices boursiers piquent du nez.
Paris, Francfort, oui, Londres, New York, oui, toutes les places boursières reculent sous l'effet de l'aggravation de la pandémie et des mesures prises un peu partout pour essayer de l'endiguer. Mesures catastrophiques, évidemment, pour le tourisme, les loisirs, les transports. Le groupe hôtelier Accor, par exemple, a plongé de plus de 5% hier à Paris. À la crise du Covid s'ajoute l'incertitude liée à la situation politique américaine. Les démocrates et les républicains n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord au Congrès sur un plan de relance, alors que l'économie en aurait bien besoin. Rien que la semaine dernière, figurez-vous, 900 000 Américains de plus se sont inscrits à l'assurance chômage.
En une semaine.
En une semaine,
ouais. C'est abyssal. Des chiffres qui jettent un doute sur la reprise, évidemment.
Des doutes, oui, sur la reprise aux États-Unis, qui vont persister au moins jusqu'à la présidentielle du 3 novembre, voire davantage si elle est contestée. Des doutes également sur la reprise en Europe, du fait de ces mesures de couvre-feu, de semi-confinement, comme à Londres, par exemple, à partir de ce week-end. Et du fait, ensuite, des négociations sur le Brexit, qui pourraient se terminer sans accord. Bref, ça fait beaucoup de raisons pour ne pas prendre trop de risques en bourse. Maintenant, si on prend vraiment du recul par rapport au soubresaut actuel, que constate-t-on comme tendance de fond ? Eh bien, que la planète boursière finalement s'organise autour de trois grandes plaques tectoniques.
Ah oui, lesquelles ?
Ben vous avez l'Asie et l'Amérique qui progressent, plus 9% à Shanghai depuis le début de l'année, plus 8% aux États-Unis, tandis que l'Europe recule, moins 12% en moyenne pour l'ensemble des places européennes. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a deux choses. D'abord, une dynamique propre à l'Asie. L'économie est vraiment repartie. On le voit par exemple à travers les ventes de produits de luxe qui se portent très bien là-bas. La Chine sera la seule grande économie à croissance positive en 2020. Et puis deux, des États-Unis qui, dans l'univers occidental, aspire l'épargne, notamment l'épargne des Européens. Pourquoi ? Parce que sur le long terme, les rendements y sont plus élevés. À long terme, les actions américaines rapportent plus, 6,4% contre 4% à peu près en Europe. Un exemple ne trompe pas, d'ailleurs, le plus grand fonds souverain du monde, le fonds d'État norvégien, à la tête de près de 1 000 milliards de dollars, vient de décider de basculer une partie de son portefeuille d'Europe vers les États-Unis. Et tout se passe au fond comme si le monde était en train de s'organiser autour de deux grands pôles boursiers, un pôle chinois et un pôle américain. Ce monde bipolaire que connaît si bien Vincent Hervouet, eh bien c'est aussi celui de la bourse.
Merci Nicolas Barré, 7h17. Vincent Hervouet, il y a un petit 1-2 là pour les amateurs de foot entre Nicolas Barré et Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour à Mathieu, bonjour à Nicolas.
Le regard international de Vincent Hervouet. On n'est pas en Chine ce matin, non, loin de la Chine. La Côte d'Ivoire, Vincent, sous haute tension, à 2 semaines seulement de l'élection présidentielle.
Il y a 20 ans, le pays de Fouet-Boigny, le pays le plus moderne, la locomotive et la vitrine de la France-Afrique, volait en éclats. Et on découvrait les marigots, les crocodiles du marigot ivoirien, un pas vide, implacable, à Henri Conan de Bédier, le président renversé, Laurent Gbagbo, le président enfermé, puis Alassane Ouattara, le président obstiné. 2000-2010, leur combat adressait les quartiers, les régions, les ethnies, les religions, les unes contre les autres, des milliers de morts, un pays fracturé. Eh bien, ces trois cavaliers de l'apocalypse, les revoilà, 20 ans de plus, mais prêts à recommencer.
La campagne s'est ouverte officiellement hier et l'opposition hésite à y participer.
Alors le président Ouattara est candidat alors que la Constitution n'autorise que 2 mandats. Oui, mais il y a une nouvelle Constitution et il considère qu'elle remet les compteurs à 0. Il jurait le contraire au printemps. Oui, mais son dauphin a été terrassé par une crise cardiaque, alors le président se sacrifie. Alassane Ouattara a toujours raison. Depuis hier, ses affiches couvrent Abidjan et clament qu'il est le meilleur. C'est sincèrement ce qu'il pense. Il trouve normal d'ailleurs que le Conseil constitutionnel ait invalidé 40 des 44 candidats qu'il défiait. L'ancien président Henri Conan de Bédier est candidat, à moins qu'il ne le soit plus. Hier, il a appelé ses partisans à un boycott actif. On ignore s'il ira au bout de cette grève. On sait qu'il ne veut plus voir Ouattara à sa place. Henri Conan de Bédier est le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il a 86 ans. Il veut être élu parce qu'un coup d'état militaire l'a privé il y a 20 ans de la fin de son mandat. Il réclame son dû, il veut sa revanche. Et tant pis si l'agitation a déjà fait 15 morts.
Laurent Gbagbo, lui, n'est pas candidat parce qu'il est en exil.
Le Conseil constitutionnel l'a disqualifié. Pour ses partisans, c'est une injustice de plus. Ils sont convaincus qu'il avait été réélu en 2010, que la France l'a renversé, que la Cour pénale internationale s'est discréditée en le gardant 7 ans en prison avant de le déclarer innocent. Son retour sera celui du sauveur, du libérateur, de l'innocent aux mains pleines. Cette triplette du malheur est prête à rejouer la tragédie. Le pire n'est jamais certain, mais les Marsouins et les légionnaires devraient vérifier leur pactage.
Merci Vincent Hervouet, 7h19. À suivre l'édito sport de Virginie Fulpin, notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern et l'expression musicale, le vendredi, faire un bœuf. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h22, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Après des semaines de combat, la guerre est finie entre la Fédération française de rugby et la Ligue. Les deux parties sont arrivées à un compromis sur la mise à disposition des joueurs pour les matchs du 15 de France cet automne. Pour vous, Virginie, on a échappé au pire, mais l'image du rugby en ressort écornée et l'équipe de France affaiblie.
Bah, si on veut être bienveillant, allez, on va dire que l'honneur est sauf. Hein. Heureusement que la Fédé et la Ligue ont fini par trouver un accord, parce que la farce à la française, c'est comme ça que l'appellent les Gallois, avait assez duré. Le rugby français est dans un marasme total avec la pandémie à tous les niveaux. Donc oui, je pense que les dirigeants ont mieux à faire que de s'écharper jusque devant les tribunaux. Ils ont passé des semaines à batailler autour de cette question de la mise à disposition des internationaux pour les matchs du 15 de France cet automne. Alors la Fédé avait son programme de 6 matchs et ne voulait pas y toucher. La Ligue en voulait moins pour que les clubs ne soient pas trop privés de leurs meilleurs joueurs. Et personne ne voulait bouger, une guerre des tranchées. Alors je ne sais pas si c'est le couvre-feu qui a fini par leur donner des idées d'union nationale, mais un accord a enfin été trouvé hier. Il prévoit toujours 6 matchs pour le 15 de France, mais les joueurs convoqués n'en disputeront pas plus de 3 chacun. Ça veut dire qu'ils pourront aussi jouer en club. Ça s'appelle un compromis, il y en a des bons, hein, mais celui-là sert juste à éviter le ridicule, sinon il ne satisfait pas grand monde. Hein.
On a surtout l'impression que le 15 de France ressort affaibli de cette guerre.
Ben, le sélectionneur Fabien Galthié, il a un grand principe, c'est l'excellence pour le 15 de France. Vouloir les meilleurs pour jouer en bleu, ça paraît logique. Mais là, il va devoir à chaque match bricoler une équipe sans avoir tous les joueurs qu'il souhaite à sa disposition, comme si le 15 de France n'était plus la priorité absolue. D'ailleurs, la priorité, on ne sait plus trop où elle est. À force d'oublier de se parler et de négocier, on ne sait plus où veut aller le rugby français. C'est Jean-Baptiste Elissalde, l'entraîneur de la défense du club de Montpellier, qui dit dans l'équipe que même les joueurs ne comprennent pas grand-chose à ces batailles interminables. Ça en dit long. Alors avec cet accord, les apparences sont sauves. Le 15 de France va bien pouvoir jouer contre le Pays de Galles dans 8 jours. On a échappé au pire. Mais le mal est profond. On peut avoir un nouvel acte de cette farce à la française pour le tournoi Destination. À un moment, ce serait bien que le rugby français cesse d'être le plus bête du monde.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport. Il est 7h24. Et comme tous les matins, nous parlons d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bœuf. Alors, à titre personnel, je me méfie toujours du principe même de la journée mondiale. Elles sont plus ou moins officielles, ça pourrait être amusant un jour peut-être de créer la journée mondiale de la journée mondiale.
Je me demande si elle n'existe pas. On va creuser.
Bon, j'aimerais revenir sur l'expression « faire un bœuf ».
Alors, on est d'accord, hein, rien à voir avec la cuisine en l'occurrence, on va parler de musique.
Oui, mais Mathieu, mais encore que. Il sera question de confiture, puisque avant de dire « faire un bœuf », on disait « faire un jam ». Vous l'avez compris, cela consiste pour des musiciens à se réunir pour jouer de la musique en improvisant totalement. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire en milieu clos. Je ne sais pas comment on va faire pour le trompettiste.
Mais alors d'où est-ce qu'il vient ce bœuf ?
Eh bien, imaginez-vous qu'il vient du 8e arrondissement de Paris, rue Boissy-d'Anglade, dans les années 20, se trouvait un cabaret où les musiciens de jazz avaient pour coutume de se retrouver pour jouer et improviser. Le nom du cabaret, le bœuf sur le toit. Ceci expliquant qu'assez rapidement, la fine fleur des artistes y allait pour faire un bœuf. S'y retrouvaient d'ailleurs pas seulement des musiciens, il y avait Cocteau, Picasso, Maurice Chevalier, Stravinsky, Eric Satie, j'en passe et des meilleurs.
Wow.
Voilà, je trouve que pour une chronique improvisée, bah c'était vraiment pas mal.
Avec un sacré casting en l'occurrence. Historiquement vôtre, c'est à 16h Stéphane.
Oui, aujourd'hui on donne de la voix. On réunit pour la première fois dans un studio radio trois divas qui s'appellent toutes Maria. Maria Malibran, la Malibran, Maria Callas,
la Callas,
et la plus diva, et pas que pour la voix, Maria Carré. Bref, on vous raconte l'histoire à haute voix avec Mathieu Noël tout à l'heure de 16h à 18h sur Europe 1.
A tout à l'heure Stéphane. Ouais. 7h26 sur Europe 1. À suivre la météo, Laurent Cabrol, un nouveau journal à 7h30. Ce sera avec Sophie Echen, à tout de suite. 7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Allez, ça s'arrange pratiquement partout, excepté encore un petit peu de patience sur la Lorraine, l'Alsace, le Mâconnais, l'Auvergne et la région Rhône-Alpes, où nous aurons encore des petites pluies par épisode. Un peu d'humidité en Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes et dans le sud-ouest, mais dans l'ensemble, l'amélioration ira crescendo au fil des heures. Les températures sont froides ce matin, mais dans la journée, entre 10 et 14, 15 degrés. Demain et après-demain, on va s'éclater, mes amis. Il n'y a pas que le couvre-feu. Il y a aussi les champignons. On en parle tout à l'heure dans le journal avec Sophie. On
va voir
que les cèpes, ça arrive. Et puis, deuxièmement, il y a les grandes marées, mes amis.
Aïe.
Les grandes marées, ça va nous faire tourner en bourriche, tu vas voir.
Laurent Cabrol, la meilleure météo de la place de Paris. 7h29 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, le journal, il est 7h30.
Vous reconnaissez cette musique ?
Bien sûr, j'ai mon popcorn avec
moi. La pub, au cinéma, les salles obscures devront fermer en principe avant 21h, mais les négociations sont en cours. Alors que tous les indicateurs sont au rouge en France, la Nouvelle-Zélande a vaincu le virus. Retour à la vie normale dans l'archipel. Dans ce journal également, des perquisitions au gouvernement dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Une information Europe 1, les bâtiments publics se battent pour bénéficier de la rénovation énergétique prévue dans le plan de relance. Et puis c'est le moment de vous rappeler de vos meilleurs coins à Champignons, la saison des cèpes est lancée.
Juste après ce journal, direction la Lune, et c'est pas du cinéma. Cette fois, l'Europe et du voyage, on en parle avec Jean-Yves Le Gall, président du Centre National d'Études Spatiales. Faut-il reporter les élections régionales ? L'édito politique Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Ce matin, l'entrepreneur Marc Ladré de La Charrière, PDG du groupe Fimalac, propriétaire de salles de spectacle vivants. Très bon réveil à toutes et à tous, 7h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dernière séance avant le couvre-feu en Île-de-France et dans 8 métropoles françaises à partir de ce soir, minuit, et pour au moins 4 semaines. Il faudra désormais rester à la maison entre 21h et 6h du matin.
Ce couvre-feu frappe de plein fouet le monde de la culture. Les cinémas, les théâtres, les salles de concert, elles dépendent beaucoup de séances nocturnes. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a reçu les professionnels du secteur qui réclament une dérogation. La question devrait être tranchée dans la journée, Mathieu Charrier.
Les représentants du monde de la culture ont déjà obtenu une dérogation. Leurs représentations ou séances de cinéma pourront se terminer à 21h, les spectateurs devant ensuite rentrer directement chez eux. Mais 21h, c'est un peu court pour lancer des shows ou projections à 19h30 ou 20h, le temps de laisser tout le monde terminer sa journée de travail. C'est pour ça qu'ils espèrent maintenant repousser cette deadline à 22h. Roselyne Bachelot s'est engagée hier après-midi à soutenir ces revendications. On s'est senti écouté, explique un délégué du secteur de la musique. Les choses avancent pour un autre participant chargé de défendre les cinémas. Du côté de Matignon, on explique que le sujet est en cours d'arbitrage. La question devrait être tranchée dans la journée.
Et la situation continue de s'aggraver. En France, plus de 30 000 nouveaux cas de Covid enregistrés en une journée, un record. Le nombre de patients admis en réanimation continue d'augmenter.
Et pour autant, il ne faut pas perdre espoir. Gardons l'objectif en vue. Nous vous emmenons en Nouvelle-Zélande ce matin où le virus est éradiqué.
Oui, il faut dire que l'archipel du Pacifique Sud a mis les bouchées doubles pour endiguer l'épidémie. Frontières fermées dès le mois de mars. 7 semaines de confinement total pendant le printemps, reconfinement en août après l'apparition de nouveaux cas. Une telle discipline que la Nouvelle-Zélande arrive en tête du classement du magazine américain Foreign Policy des pays qui ont le mieux géré la crise.
Et ça paye après avoir affronté deux vagues de Covid. Aujourd'hui, on est sans masque, les bars et restaurants sont à nouveau ouverts, les compétitions sportives, les événements sont reprogrammés. La vie reprend son cours, Pauline Jacquot.
Flâner dans les rues sans masque, dîner entre amis ou boire un verre sans se préoccuper du virus, Anaïs, installée depuis un an à Auckland, savoure ce début de printemps néo-zélandais.
Là, la vie commence vraiment à repartir, en fait. Il y a de plus en plus de gens dans les rues. Donc, dans mon petit groupe d'amis, on s'est déjà organisé des trucs. Et puis là, il y a Halloween qui va arriver. Donc, on peut prévoir sur 2-3 semaines ce qu'on va pouvoir faire. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir du mouvement.
Dans les rues, le hug, la fameuse accolade, a repris ses droits. Plus de gestes barrières. Anne-Lise travaille dans une pizzeria au bord de la plage.
Dans les restaurants, il n'y a plus de règles de distanciation sociale. On a remis les tables bien côte à côte. Il n'y a pas du tout de masque, pas de gants. Les Néo-Zélandais regardent un peu le reste du monde un peu avec effroi, quoi. Et ils se sentent vraiment très privilégiés. Ça ressort à chaque conversation. Ils sont très reconnaissants et je pense très satisfaits aussi de la manière dont leur gouvernement a géré la crise. Ça a été très drastique et ça a marché.
Une multiplication très rapide des tests, deux confinements, un bilan sanitaire salué par l'OMS qui vote aujourd'hui à la première ministre Jacinda Ardern d'être ultra favorite demain lors des élections législatives.
7h34 sur Europe 1. La suite de l'enquête ouverte l'été dernier sur la gestion de la crise sanitaire. Hier, les domiciles de plusieurs membres ou ex-membres du gouvernement ont été perquisitionnés.
Les policiers et les gendarmes cherchaient des documents dans le cadre de cette enquête pour abstention de combattre un sinistre. Le docteur Ludovic Taureau, maire de Coubron en Seine-Saint-Denis et président de l'Observatoire régional de la santé en Île-de-France, fait partie des plaignants.
Je ne pensais pas que ça aurait été aussi vite. C'est vrai qu'une perquisition, c'est assez brutal, mais c'est aussi un moyen de trouver des preuves. Avoir nié l'utilité d'un masque, c'est remettre en question toute la médecine depuis des années. Et c'est surtout, je pense, un mensonge sanitaire, tout simplement. Qui va me dire aujourd'hui que le masque ne sert à rien pour se protéger contre un virus qui est contaminant par la bouche? Avoir dit que ça ne servait à rien est une erreur médicale. Et pour un ministère de la Santé et un Premier ministre, c'est une erreur à laquelle il doit nous répondre. C'est un symbole, parce que cette crise n'est pas finie, d'une mauvaise gestion. C'est-à-dire qu'on savait tous qu'il n'y avait pas de masque. Mais il fallait le dire. C'est impératif pour le soignant d'entendre qu'ils se sont trompés. Après, mensonge ou pas mensonge, ça sera la justice qui jugera.
Un témoignage recueilli par Guillaume Bier.
C'est une information Europe 1. On connaît les premiers bâtiments publics qui ont candidaté pour bénéficier du plan de relance.
4 milliards d'euros vont être consacrés à leur rénovation énergétique. Un appel d'offres a été lancé il y a un peu plus d'un mois. Il vient de se terminer. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Il y a eu énormément de candidatures.
Bah écoutez, il y a eu 4000 projets déposés pour un montant total de près de 8 milliards d'euros. C'est deux fois plus que l'enveloppe prévue. Alors l'un des projets les plus coûteux, c'est celui de la fac de droit de Rennes 1. Plus de 10 millions d'euros pour isoler la façade et refaire la ventilation. Plusieurs concernent la police nationale. À Grasse, par exemple, le dossier prévoit de rénover le commissariat et les logements de fonction. Coût total, 6,8 millions. Les bureaux de la police nationale de Saint-Étienne prévoient pour près de 3 millions d'euros de travaux d'isolation, avec également changement des radiateurs, ravalement de façade en vue à Bastia ou encore construction de deux nouveaux bâtiments pour le commissariat de Chevilly-Larue. À Montauban, un énorme projet de destruction, reconstruction de quasiment tous les bureaux administratifs est prévu pour un montant de 15 millions d'euros. Je peux vous citer aussi la Direction Générale des Finances de Bayeux. On ne va pas faire les 4000, hein. Tous en tout cas ne seront pas retenus. La liste définitive doit être publiée le 30 novembre prochain.
Les informations de Carole Ferry en direct ce matin sur Europe 1.
Et puis on entendait Laurent Cabrol juste avant ce journal. Alternance de pluie et d'éclaircies, le temps idéal pour la cueillette des champignons. Le coup d'envoi de la saison des cèpes vient d'être donné.
Mais de quoi donner des idées à l'approche du week-end. On va aller dans les forêts du Médoc, où Christophe a fait une belle récolte récemment. 1 kilo de cèpes en une demi-heure seulement.
La cueillette a été bonne, oui. On a ramassé une dizaine de champignons de cèpes. Ça fera une bonne omelette pour ce soir. Ça, c'est des beaux cèpes, ça. Là, c'est des vrais cèpes de Bordeaux. Le dessous vert, une queue bien blanche, un chapeau bien marron. Pas trop foncé, mais assez clair. Vous en vous trouvez un, vous en trouvez deux, puis après vous n'avez plus envie de vous arrêter. C'est comme ça qu'on remplit les poches. Hein. Là, en ce moment, ça commence juste, mais d'ici 15 jours, ça sera vraiment au taquet. Là, il y en aura partout, et il y a des règles, mais personne ne les respecte. Quoi. Vous tombez sur 10 kilos, vous ramassez les 10 kilos.
Ouais. Voilà, 10 kilos. La loi autorise 5 maximum, mais bon.
Faut aller pour les autres.
Chevronné, interrogé par Stéphane Place.
Et en plus, c'est une activité dans le cadre du respect du protocole sanitaire. On est en plein air, on est loin les uns des autres. Allez-y, profitez-en en tout cas. Merci Sophie Etchaine, il est 7h37 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Est-ce qu'on n'ajoute pas du flou aux annonces du président de la République? Ce matin, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, exprime un souhait dans Le Parisien que le ticket des spectateurs les autorise à rentrer chez eux après 21h. Il faut dire que le coup est extrêmement rude pour le monde du spectacle, cinéma, théâtre, salle de concert. Invité exceptionnel à 8h15, le grand patron Marc Ladré de La Charrière, PDG du groupe Fimalac, propriétaire de salles de spectacle vivant, il lance un appel. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, on va prendre de la hauteur. Alors j'ai utilisé cette expression à deux reprises cette semaine en recevant deux philosophes. Cette fois, c'est au sens propre. L'homme va retourner sur la Lune. Et cette fois, nous faisons partie du projet. On en parle dans une minute avec Jean-Yves Le Gall, président du Centre National d'études spatiales, le tête-à-tête Europe Matin. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h40. Près de 50 ans, l'homme n'a plus posé le pied sur la Lune depuis 1972. Et nous y retournons, 2024. Je dis bien nous, l'Agence spatiale européenne fait partie du projet avec la NASA. Thales et Airbus viennent d'emporter des appels d'offres pour équiper la mission. Mon invité, Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Jean-Yves Le Gall.
Bonjour.
La mission Artémis. Artémis, déesse de la nature, déesse grecque associée à la Lune. La Lune, la mission Artémis, l'objectif américain, celui de la NASA, c'est de reposer l'homme sur le sol lunaire en 2024, placer une nouvelle station spatiale en orbite autour du satellite de la Terre. Et l'information ce matin, c'est que la France et l'Europe seront du voyage. D'abord, d'un point de vue technique, Thales et Airbus vont équiper la mission. L'Europe investit 2,5 milliards d'euros. Nous allons construire le module qui permettra d'aller sur la Lune.
Oui, on va construire ce qu'on appelle le module de service de la capsule Orion, c'est-à-dire les moteurs, tous les systèmes qui, lorsque la capsule avec à l'intérieur les astronautes se sera séparée de la fusée, eh bien ces systèmes lui permettront de faire le trajet Terre-Lune, donc c'est 3-4 jours de voyage, ensuite se mettre en orbite autour de la Lune, attendre que les astronautes soient descendus, remontés et puis revenir sur la Terre. C'est un élément majeur et fondamental et ce qui montre au passage toute la confiance que font les Américains à l'industrie spatiale européenne, puisque nous confier le développement, la fabrication, l'industrialisation de ce module, ça montre et à quel point ils croient en nous.
Et justement, est-ce que c'est une évidence pour la NASA? Est-ce qu'elle a besoin de nous, de notre savoir-faire, ou est-ce qu'on est challengé, je pense en particulier à Elon Musk et SpaceX?
Oui, vous savez, aujourd'hui, le système spatial, c'est un système multiforme. Il y a des tas de gens qui y travaillent. Bon, Elon Musk sera aussi de voyage. Mais ce qui me semble très, très important, c'est que, premièrement, l'Europe a décidé à la conférence de Séville, fin novembre, donc il y a presque un an.
Pardonnez-moi, Jean-Yves Le Gall, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour toute autre chose, mais vous partiez à Séville.
Je partais à Séville.
Précisément pour.
C'est là que s'étaient réunis les 22 ministres de l'Agence spatiale européenne, et donc ils avaient décidé de mettre des milliards pour que l'Europe soit partie prenante de ce programme Artemis qui a vocation à ce que des hommes et surtout des femmes retournent sur la Lune, et cette fois-ci non pas juste pour y aller mais pour y demeurer. Donc à Séville, nous avons décidé de nous engager dans cette conquête lunaire, et maintenant bien, les contrats sont mis en place. Donc premier point, l'Europe a envie de retourner sur la Lune, et ça c'est très important parce que les politiques ont bien compris tout l'intérêt qu'il y allait. Et deuxième point, la NASA fait confiance à notre industrie.
J'ajoute que l'intérêt de la partie, on va être un petit peu chauvin, hein, c'est d'envoyer un Français sur la Lune, un Européen, un Français éventuellement. On pense tous ce matin à Thomas Pesquet. Est-ce qu'on a raison d'y croire?
Mais bien sûr, et d'ailleurs on fait tout pour, puisque après le vol de Thomas Pesquet, donc vous vous souvenez, il était parti en 2016 et revenu le 2 juin 2017. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, était venu au CNES pour assister en direct au retour de Thomas au Kazakhstan. Eh bien, depuis... En haut de mes objectifs, il y avait de faire revoler Thomas, et c'est ce que nous allons faire. Il va revoler, il va repartir cette fois-ci, non pas du Kazakhstan, mais de la Floride, en mars-avril, pour passer 6 mois à bord de la station. Donc, deuxième séjour de 6 mois à bord de la station. Il aura très probablement des responsabilités élargies, et je dirais que ça le qualifie pour une éventuelle mission lunaire dans la période 2025-2030.
Jean-Yves Le Gall, je vais faire une autre indiscrétion pour nos auditeurs. Je sais que vous êtes auditeur d'Europe. Ça c'est Europe 1 le 20 juillet 1969.
L'homme a atteint la Lune.
L'homme a atteint la Lune.
Et ça c'est Albert Ducrot.
Waouh.
Voilà.
J'allais citer l'archive. Vous étiez déjà auditeur, vous étiez tout petit.
Oui, mais vous savez, quelques années auparavant déjà, je faisais un trafic de vignettes avec écrit Europe 1. Donc les stickers déjà, ça vous connaissez, mais c'est Albert Ducrot que j'ai eu le plaisir de rencontrer très souvent et qui a été, c'est l'un des piliers de la conquête spatiale en France.
Alors écoutez, vous lui rendez le plus bel hommage, Jean-Yves Le Gall. Vous m'avez surpris, impossible à piéger Jean-Yves Le Gall en l'occurrence. Revenons sur le sol de la Lune. Qu'est-ce qu'on va y chercher? Il y a un intérêt stratégique, évidemment. On commence tous à réfléchir à se servir de la Lune pour aller sur Mars ensuite, mais déjà, la Lune en elle-même, on n'a pas vu grand-chose encore.
Non, parce que aujourd'hui, quand vous regardez le spatial, il y a eu les premiers vols habités, le vol de Gagarine en 1961, et la suite du vol de Gagarine, il avait passé quelques dizaines de minutes dans l'espace, c'est aujourd'hui la Station Spatiale Internationale où il y a en permanence 3 à 6 astronautes qui sont en orbite. Eh bien, pour la Lune, ça va être pareil. Armstrong, c'est l'équivalent de Gagarine, donc on personnes restées quelques dizaines d'heures sur la Lune. Et grâce à Artemis, on va séjourner sur la Lune comme aujourd'hui on séjourne dans la station. Ce qui veut dire qu'à partir de 2028-2030 et à l'échelle de ce que nous faisons c'est demain, eh bien, nous aurons en permanence 2, 3, 4 personnes sur la Lune avec des rotations comme on a aujourd'hui dans la station. Et dans ces rotations, il y aura bien sûr des Européens et des Français. Et on va apprendre à étudier le sol lunaire parce qu'on n'a pas fait grand-chose, notamment regarder si on peut trouver de l'eau, si à partir de là on peut faire du carburant pour des fusées, de l'habitat et faire en fait une sorte de base de départ pour la mission d'après qui sera la mission vers Mars. Alors là, bien sûr, c'est à plus long terme, mais déjà, il faut passer par cette étape qui est l'habitation permanente sur la Lune.
L'habitation, c'est important d'avoir des humains. Je sais qu'il y a des débats dans la communauté scientifique entre envoyer des robots, ça coûte beaucoup moins cher, on peut aller plus loin, rester plus longtemps, ou en tout cas différemment, ou envoyer des humains. Est-ce que c'est important d'être physiquement présent sur la Lune ?
Bien sûr, on a besoin des deux. Vous savez, on dit toujours que la mission la plus réussie, la mission Apollo la plus réussie, il y a eu 6 missions Apollo, 11, 12, bon 13 ne s'est pas posé sur la Lune, mais ensuite 15, 16, 17, eh bien la plus réussie, ça a été Apollo 17, la dernière mission, parce qu'il y avait à bord un géologue, Harrison Schmitt, et il a pu savoir exactement quelle roche il fallait rapporter, et il a fait une moisson de résultats, finalement, presque aussi grande que tout ce qui avait été fait par les autres missions auparavant. Et même avec l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut imaginer, rien ne remplace l'œil de l'homme. Et donc c'est pour cela que cet habitat permanent sur la Lune est aussi important.
Et puis, ça coûte cher. Ça coûte très cher tous ces projets, c'est de l'investissement de long terme, il faut emmener les populations. Thomas Pesquet par exemple, on en parlait, cette nouvelle star de la conquête spatiale en France, c'est important d'incarner finalement ce projet.
Oui, c'est très important. Alors c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est vrai aussi qu'il y a des retombées phénoménales, parce qu'on apprend beaucoup, un programme spatial, ça tire la technologie vers le haut. Regardez ce qui se passe en ce moment partout dans le monde, pourquoi y a-t-il cet appétit de spatial? Parce que quand on fait du spatial, eh bien, on parle de l'industrie, il y a des start-up sorti pratiquement du néant qui n'existait pas il y a 15 ans, qui aujourd'hui défraie la chronique. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Inde, c'est vrai en Asie, c'est vrai un peu partout dans le monde. Et c'est très très bien que l'Europe y soit, que la France y soit, parce que c'est dans l'espace finalement que s'écrit notre avenir. Et c'est cette conquête spatiale, tous ces investissements qui sont faits, qui permettent donc de préparer les technologies de demain.
À qui appartient la Lune ?
La Lune n'appartient à personne, donc il y a justement des débats, ça fait partie des accords Artemis qui sont en train d'être signés pour voir comment on va justement légiférer pour savoir comment on va s'installer sur la Lune.
Jean-Yves Le Gall, mille merci d'être venu nous faire rêver d'abord, nous parler technique, nous parler science, l'exploration de la Lune, la face cachée, les pôles, l'or d'Autriche aussi le raconté dans le journal de 7h, mais le rêve avant tout, puisque l'homme sur la Lune, certains n'étaient pas nés et certains se réjouissent de peut-être voir à nouveau l'homme sur notre satellite.
C'est pas peut-être, on le verra, rendez-vous dans quelques années.
2024, c'est le projet américain et Jean-Yves Le Gall, président du CNES, était notre invité ce matin dans le tête-à-tête. Le CNES, je le rappelle, premier financeur de l'Agence spatiale européenne. Les Européens et les Américains, main dans la main, pour retourner sur la Lune. Merci Jean-Yves Le Gall.
Merci.
7h48. In other words... Vous vous souvenez évidemment des dernières municipales, le fiasco, le week-end qui précédait le confinement. Faut-il décaler les régionales au printemps prochain ? L'édito politique de Nicolas Bétou.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h51.
Tout de suite retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Emmanuel Macron a annoncé la création d'une commission des sages pour travailler sur le calendrier des prochaines élections, les régionales et les départementales, normalement prévues en mars.
Tout le monde se souvient des conditions chaotiques dans lesquelles s'étaient déroulées les élections municipales au début de cette année. Un premier tour catastrophique qui avait eu lieu au lendemain de l'annonce de la fermeture des restaurants et à la veille du grand confinement. Et un second tour décalé à fin juin, avec un électorat totalement démotivé, record d'abstention à la clé. À peu près tout avait été fait en dépit du bon sens, dans l'urgence des premières réponses à la crise sanitaire, et personne ne peut prétendre sérieusement que ces épisodes électoraux n'auront pas été plus ou moins faussés.
Et c'est le même risque qui se profile pour les prochaines régionales ?
Oui, puisque Emmanuel Macron, dans son intervention télévisée mercredi soir, a parlé d'un virus avec lequel il faudrait faire au moins jusqu'à l'été. Ça veut dire que le déroulement de la campagne électorale peut être très perturbé, que les réunions publiques pourrait être limitée ou pourquoi pas interdite, ou même qu'on pourrait avoir des inégalités entre territoires si, par exemple, une région était confinée et pas l'autre, comme on le voit en ce moment avec le couvre-feu. Le minimum, cette fois, c'est donc d'anticiper la décision.
Mais avec tous ces risques que vous évoquez, le plus cohérent, ce serait donc de reporter les élections.
Oui, mais dès qu'on touche au calendrier électoral, le soupçon de tripatouillage n'est pas loin. Pour Emmanuel Macron, ces élections arrivent en fait à un mauvais moment. La République En Marche ne contrôle aucune région et les chances d'en conquérir sont bien minces. À un an de la présidentielle, une défaite électorale de ce type serait un contre-signal. Le chef de l'État aurait donc plutôt intérêt à un report. D'ailleurs, bizarre, il avait déjà évoqué cette hypothèse, c'était en juillet dernier. À l'époque, le prétexte officiel, c'était qu'il fallait laisser tout le monde se concentrer sur le plan de relance et sur son application sur le terrain.
Et dans l'opposition, quelle est la tendance ?
Très variable. Xavier Bertrand, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, est farouchement contre un report. Sa réélection à la tête des Hauts-de-France lui servirait de tremplin pour la course à l'Élysée. De son côté, Valérie Pécresse, qui est plus incertaine en Île-de-France, semble elle aussi refuser un report, tout comme Renaud Muselier en Provence-Côte d'Azur. Mais d'autres régions sont pour, et plusieurs patrons de départements militent activement pour un décalage dans le temps.
Un décalage dans le temps, ça voudrait dire combien de mois ?
Ben c'est la grande question. Hein. Si c'était de 2 ou 3 mois, ce serait anodin, mais le virus sera peut-être là encore en juin. Et si c'est plus, alors ça pourrait renvoyer ces scrutins carrément après la prochaine présidentielle. Et dans ce cas, on aurait sûrement le même phénomène qu'aux législatives. C'est le camp du président élu qui rafle la mise. Et là, c'est sûr, rien de mieux pour nourrir un procès en bidouillage politique.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
À 8h15 ce matin, Sonia Mabrouk recevra Marc Ladré de la Charrière, le grand patron, PDG et fondateur du groupe Fimalac. Et tous les matins, Nicolas Canteloup coach l'invité à sa manière. Roselyne Bachelot, tiens, voulait donner un petit conseil. Ah.
Oui, bonjour Monsieur Béliat. Oh, j'entends déjà Monsieur Cabrol sourire, Monsieur Bétou. Écoutez, j'avais un petit conseil à donner à Marc Ladré de la Charrière, qui possède, vous le savez, de nombreux théâtres et qui est en souffrance, bien sûr. Sa fortune est estimée à 4,4 milliards. Il y a un risque, elle passe à 4,3 milliards. C'est pas envisageable. Alors, écoutez, cher Marc-André, rassurez-vous, j'essaye d'obtenir auprès de Jean Castex une dérogation couvre-feu pour les entreprises de spectacle. Mais au cas où ça se passe mal, je lui conseille de programmer en one-woman show dès la fin du quinquennat. Vous savez, je connais plein de super blagues des grosses têtes, je les ai listées. Par exemple, celle du rabbin qui ramasse des champignons, ou celle de la prostituée qui ramasse des champignons.
Chic.
Oui. Non, mais je vous dis ça parce que Europe 1 ne parle que de champignons depuis ce matin, je vous écoute. Hein, le monde panique sur le coronavirus et le couvre-feu, Europe 1 va cueillir des cerfs. Vous entendez, Marc, cher Marc-André, ça sourit déjà. Je peux sauver votre entreprise.
Bravo Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Tous les jours, Sonia Mabrouk reçoit donc Marc Ladré de la Charrière, PDG, fondateur du groupe Fimalac. Ce sera à 8h15 sur Europe 1. Nicolas Canteloup, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presque. La culture est à la une ce matin, vous l'aurez compris, avec Marc Ladré de la Charrière tout à l'heure. Et dès l'ouverture du journal de 8h, un autre appel, un appel lancé par le rappeur Akhenaton, le rappeur d'IAM. Il était l'invité de Sébastien Krebs à 6h40 tout à l'heure. Bon réveil à toutes et à tous. La vérité est masquée, bien basculé de notre côté. 7h57. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Allez, nous sommes sur la bonne voie de l'amélioration, comme je l'indiquais tout à l'heure. L'amélioration sera très sensible sur quasiment toutes les régions de France, excepté Lorraine, Alsace, Mâconnais, Auvergne et région Rhône-Alpes. Nous aurons encore quelques petites pluies, mais ça ne va pas trop durer. Même de la neige en montagne à partir de 1200 mètres, car ce matin, il fait froid. Sur le nord, la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes et le sud-ouest, un temps humide, mais il baisse la tête. Hein, l'humidité baisse la tête, ça ira mieux. Bref, ça va mieux partout dans les 24 heures qui suivent. Température entre 9 degrés
et 14 degrés, 14 à Paris, même jusqu'à 18 à Nice. Donc tout va bien, demain, après-demain, et après-après-demain, et après-après-demain, sera beau. Et nous aurons donc un début de vacances de la Toussaint qui sera agréable, très agréable. Je n'ose pas donner le temps de la Toussaint, je ne le tiens pas encore, je ne le tiens pas.
Il faut rester sur Europe 1 la semaine prochaine. Merci beaucoup Laurent Cabrol, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Écoutez le monde changer.
Dans une petite commune forestière où il n'y a aucun cas de Covid, comment voulez-vous que la population reçoive ça ?
C'est l'autre écueil du couvre-feu, sa pertinence dans les zones rurales qu'englobent les grandes métropoles françaises. Les 20 millions d'habitants concernés ne sont pas tous des urbains, loin de là. Colère aussi dans le monde de la culture. Le rappeur Akhenaton dénonce sur Europe 1 une société qui place la mort sur un piédestal et laisse la vie par terre. Nous verrons aussi comment résister à la petite déprime que ce couvre-feu risque d'apporter, en plus du traditionnel coup de mou saisonnier de l'automne. Dans ce journal, une Mégane reliftée et électrique au cœur de la nouvelle stratégie de Renault. Pas de débat entre Trump et Biden cette nuit, c'est la télécommande qui faisait office de modérateur pour écouter l'un ou l'autre. Et puis le Téléthon version jeu vidéo ou comment mobiliser des millions d'euros grâce à des gamers scotchés tout un week-end à leur console.
La culture en souffrance, vous le disiez François, depuis le mois de mars. Et aujourd'hui, le couvre-feu, des milliers d'entrepreneurs inquiets. Entretien dans un instant avec un des plus gros propriétaires de salles de spectacle privées, l'homme d'affaires Marc Ladré de la Charrière, PDG, fondateur du groupe Fimalac, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
36 communes autour de Toulouse, 70 dans la région rouennaise, 94 dans la métropole lilloise. Au total, ce sont 1755 communes qui vont vivre sous couvre-feu à partir de ce soir minuit, y compris le Tartre-Gaudran dans les Yvelines et ses 34 habitants. Passy-sur-Seine en Seine-et-Marne, 47 administrés, ou encore Teville dans le Val-d'Oise et ses 45 âmes.
Dans la métropole d'Aix-Marseille, où l'on dénonçait déjà une décision venue d'en haut lors de la fermeture des bars en septembre, un nouveau début de fronde gagne les élus. Reportage de Nathalie Chevance.
Amateurisme, improvisation, c'est la maire LR d'Aix-en-Provence, Maryse Joissin, qui a sans doute les mots les plus durs contre le gouvernement, qui d'après elle, ne mesure pas les conséquences locales d'un couvre-feu de 6 semaines.
C'est meurtrier. Nous avons des étudiants qui travaillent dans les restaurants pour arrondir leur fin de mois. Toute une économie de petites gens. Ils ne réalisent pas l'implication de ce que leurs décisions vont avoir sur l'ensemble de la France. On est catastrophés.
Et pour la maire écologiste de Marseille, Michel Rubirola, médecin de profession, le gouvernement prend le problème à l'envers.
Comment peut-on ne pas être en colère quand on pense que cette mesure frappe au mauvais endroit et ne résoudra pas la cause principale, et quoi qu'on en dise, l'abandon de l'hôpital public depuis des années, c'est ça qui est déplorable.
Très remontés aussi les maires des petites communes de la métropole qui n'acceptent pas de subir ce couvre-feu. Georges Christiani, maire de Mimay.
Dans une petite commune forestière, rurale, où il n'y a aucun cas de Covid, comment voulez-vous que la population reçoive ça ? Comment peut-on être aussi peu proche de la réalité des gens et du quotidien ?
Des élus qui aujourd'hui remettent en cause l'existence même de la métropole. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Alors dès mercredi, Emmanuel Macron se faisait très clair. On devrait être rentré chez soi à 21h et pas au-delà. Mais voilà que Roselyne Bachelot réclame des assouplissements. Elle, qui est pourtant ministre, se pose en médiatrice entre le monde de la culture et le gouvernement.
Elle propose dans le journal Le Parisien que 21h puisse être l'heure de la fin des séances et que le tickets de cinéma servent de justificatif.
Roselyne Bachelot qui précise à propos de la solidarité gouvernementale, la ministre de la Culture est respectée et entendue par le Premier ministre et le Président, je ne me suis jamais trouvé en difficulté.
Et ce matin, au micro Europe 1 de Sébastien Krebs à 6h40, le rappeur Akhenaton a lancé un cri d'alarme pour une industrie culturelle qu'il estime abandonnée.
Je voudrais juste dire aux auditrices et aux auditeurs qui comprennent aussi des fois nos prises de position et notre situation et qui se mettent à notre place si du jour au lendemain, depuis mars 2020, on coupe leurs revenus et qu'ils n'ont zéro et qu'on leur dit on ne sait pas quand c'est que vous allez reprendre et que les aides ne nous concernent pas. Forcément, il y a un peu de colère et de questionnement dans nos prises de position. Là, nos métiers, les salles de spectacle, les producteurs de spectacles privés sont dans des situations extrêmement difficiles. Et ça, c'est la vie. Vous voyez, dans l'équilibre des choses, quand on évoque l'équilibre des choses et l'équilibre des choses dans l'univers, la vie et la mort sont sur une même marche. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une société qui place la vie au même niveau que la mort. La mort est sur un piédestal et la vie est par terre, au sol. C'est une société mortifère qui a peur.
le rappeur Akhenaton du mythique groupe de rap IAM qui était ce matin invité du 5-7 d'Europe 1. Ce couvre-feu qui sonne comme une sorte de reconfinement des soirées et des nuits a de quoi nous plomber le moral, on peut le dire.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Cette restriction semble bien nécessaire, mais pour nous tous, elle est peut-être difficile à encaisser.
Oui, effectivement, pour tous ceux pour qui les sorties de fin de journée sont des moments ressources pour se détendre, pour faire des rencontres. Alors oui, cette perspective du couvre-feu est difficile. C'est le cas de Clément, un Parisien de 25 ans.
Personnellement, j'ai l'impression d'être puni, en fait. Il y a eu les bars, maintenant c'est les dîners, enfin on doit être limité dans les dîners, maintenant il y a un couvre-feu, donc il y a une forme de lassitude en moi, en fait. J'en ai marre, je me dis jusqu'où ça va aller.
Ça se comprend, hein, mais comme sur le plan sanitaire, on n'a pas le choix, explique Stéphanie Pellissolo, psychologue à Paris. Le mieux pour le mental, c'est d'accepter la situation.
Là, on nous interdit juste effectivement de sortir entre 21h et 6h. Ça va, quoi. Sombrer, râler, crier à l'injustice ne fait que rajouter quelque chose de désagréable à une situation qui est déjà désagréable. Donc là, c'est plus avoir aussi une approche un peu plus philosophique, un peu plus sage. Il faut vraiment qu'on reste ouvert.
Ouvert pour inventer de la convivialité autrement. Alors pourquoi pas l'apéro à 17h le week-end, les déjeuners à la place des dîners, les soirées ciné chez les amis avec la nuit sur place. Cette psychologue qui a scruté le moral des Français pendant le confinement est assez optimiste sur leur potentiel créatif.
Anne Le Gall pour Europe 1.
Et s'il fallait se convaincre de la dégradation de la situation, un seul chiffre, celui des contaminations recensées hier en France, 30 600, du jamais vu.
On attend toujours le formulaire pour pouvoir se faire des petites attestations. Attestation de déplacement dérogatoire comme au temps du confinement. Et je viens de vérifier pour vous, ce n'est pas encore sur le site du gouvernement ni celui du ministère de l'Intérieur.
8h06 sur Europe 1. Il est en fonction depuis 3 mois. Le nouveau patron de Renault, Luca De Meo, commence à imprimer sa marque sur le constructeur français.
Oui, alors après l'affaire Carlos Ghosn, après les mauvais résultats aggravés par la crise sanitaire, Renault doit repartir. Aurélien Fleureau et son patron n'a pas le droit à l'erreur.
Oui, et après avoir relancé la Fiat 500 il y a quelques années, Luca De Meo commence sa nouvelle mission par miser sur une marque connue dans l'histoire de Renault, la Mégane, avec un design futuriste, plutôt sportif, compromis entre la berline et le SUV compact.
Moi je pense qu'il faut que Renault monte d'un cran en termes de centre de gravité de la gamme, et cette voiture va nous permettre de faire les premiers pas dans ce recentrage d'un cran qu'on a en tête pour le futur de Renault. Je pense qu'on est trop concentré sur les petites voitures citadines.
Et cette voiture sera la première Renault issue de la toute nouvelle plateforme électrique du groupe, développée avec Nissan. La production va débuter d'ici un an dans l'usine de Douai. Pas de Made in France, en revanche, pour l'autre modèle dévoilé hier, la Dacia Spring, qui doit incarner le low-cost 100% électrique.
Le concept, il est plutôt simple. Ça va être la voiture électrique la plus accessible du marché. Et je pense que ça va donner la possibilité aux gens d'acheter une voiture électrique au prix où aujourd'hui, ils achètent une voiture à moteur à combustion.
Deux voitures qui constituent les deux premières cartouches tirées par Luca De Meo, dont le plan stratégique global pour Renault est attendu dans les prochaines semaines.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Le Brexit. Angela Merkel, qui préside le Conseil européen en ce moment, appelle à des concessions des deux côtés. Ça bloque toujours, en particulier sur la question des zones de pêche.
Dans un tout petit instant, le zapping de la présidentielle américaine. Hier soir, choisir sa chaîne de télé, c'était choisir son camp.
Et nous avons aussi jeté un œil sur les jeux vidéo. Un marathon qui s'annonce ce soir pour la bonne cause.
A tout de suite, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Il ne voulait pas débattre en visioconférence. Donald Trump a tout de même défié son adversaire Joe Biden à distance et à la télé. Le républicain et le démocrate étaient en même temps sur deux chaînes différentes cette nuit. Aux États-Unis pour Europe 1, Xavier Yvon a beaucoup zappé.
Deux chaînes, deux ambiances. The Vice President and the People. Joe Biden sur ABC. Un ton compassé, de longues tirades sur l'économie, le climat ou la diplomatie, de la substance, mais pas d'enthousiasme. From NBC News, President Trump. Sur NBC, Donald Trump lui fait des étincelles, mais sur le fond, pas grand-chose. Il lutte contre la présentatrice, Savannah Guthrie, qui tente de lui arracher des réponses, notamment sur le flou autour de sa contamination au Covid-19. Vous êtes mignonne, finit par s'agacer le président. Pas sûr que ça l'aide auprès de l'électorat féminin qui lui fait défaut. Donald Trump finit par condamner clairement les suprémacistes blancs, mais il refuse de dénoncer le mouvement complotiste QAnon. Les deux candidats se répondent à distance sur la question des masques. Sur les masques, il y a deux camps, ceux qui en veulent et ceux qui n'en veulent pas. Et je suis avec les deux, explique Donald Trump. Les mots d'un président, ça compte, dit Joe Biden. Et quand un président ne porte pas de masque ou se moque de moi parce que j'en porte un, les gens se disent, ça ne doit pas être si important. Les deux candidats devraient pouvoir confronter leurs points de vue dans un vrai tête-à-tête cette fois, lors du dernier débat télévisé, la semaine prochaine, s'il est maintenu. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Et notez que plus de 17 millions d'Américains ont déjà voté. C'est presque 13% de la participation d'il y a 4 ans. On a parfois l'image des amateurs de jeux vidéo comme d'adolescents individualistes enfermés dans leur chambre.
C'est tout le contraire qui va se passer ce week-end avec le The Event, une sorte de téléthon de joueurs. L'année dernière, 3,5 millions d'euros récoltés pour l'Institut Pasteur, Clément Le Saffre. C'est aussi une grosse ambiance.
Moins de 4 000, moins de 3 000, moins de 2 000, moins de 1 000.
L'an dernier, le The Event s'était achevé sur un cri de joie et un record. Jamais un événement caritatif en ligne n'avait collecté autant de dons. Cette année, les gamers se mobilisent pour Amnesty International, mais Adrien Nougaret, alias Zerator, co-créateur de l'événement, ne se fixe pas d'objectif.
Moi, je dis toujours, dès qu'il y a 1 euro, c'est gagné. The Event n'a jamais eu pour but d'être une machine à lever des fonds toujours plus importantes. L'important, c'est qu'on arrive à se rassembler pour une bonne cause. Après, qu'on fasse 3 millions, 1 million, 6 millions, 10 millions, c'est du bonus.
Une quarantaine de streamers seront présents cette année. Ils ont tous passé un test PC et vont rester confinés dans l'hôtel qui accueille l'événement à Montpellier. Certains joueront aux jeux vidéo, d'autres ont prévu des défis pour inciter les spectateurs à faire un don.
Il y a un question pour un champion qui va être fait samedi à 20h, qui est organisé par un streamer qui s'appelle Étoile. Et en fait, la particularité, c'est qu'il est présenté par Samuel Etienne. Ils ont préparé toute une émission, il y a plusieurs équipes de streamers. Donc ça, ça va être un peu le gros happening de l'événement, je pense que ça va être très marrant à regarder.
Le The Event se terminera dimanche soir après plus de 50 heures de direct sur Twitch. Pour suivre cet événement en très bon enfant ou pour faire un don, une seule adresse: www.theevent.fr.
Clément Le Saffre.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le monde de la culture sous le choc du couvre-feu. Notre invité est le leader français du spectacle. Ce poids lourd du monde de la culture est un grand patron qui se bat pour que le rideau ne tombe pas définitivement sur les scènes de France. Marc Ladrette de La Charrière, notre invité dans quelques instants.
8h13, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1. L'invité d'Europe Matin, un grand patron, votre invité Sonia Mabrouk, Marc Ladrette de La Charrière, PDG et fondateur du groupe Fimalac.
Bienvenue à vous et bonjour Marc Ladrette de La Charrière.
Bonjour.
Vous êtes également propriétaire de nombreux théâtres, de nombreuses scènes et des salles à Paris et en province où se produisent de nombreux artistes. Comment vous avez réagi à l'annonce du couvre-feu dans plusieurs métropoles ?
Écoutez, moi je pense que c'est un mot choc qui a été Ce mot choc, il est très important parce qu'il frappe les esprits et il prolonge en réalité ce qu'a dit Emmanuel Macron lorsqu'il a dit « nous sommes en guerre ». C'est le prolongement au début de la crise. Et finalement, Emmanuel Macron a choisi une sorte d'équilibre entre d'un côté mettre en place de nouvelles normes sanitaires et en même temps assurer le maintien de la vie économique. Donc c'est un bon équilibre. Bon, maintenant, cet équilibre, il faut qu'il se mette en place. Il a dit, Emmanuel Macron, j'ai besoin de vous,
oui,
dans la
qu'est-ce
réalité.
Qu'est-ce que vous lui dites, oui.
Nous avons besoin des autres, et les autres ont besoin de nous. Donc, il faut faire de la solidarité, c'est une solidarité pleine et entière. On verra bien.
C'est un mot choc, vous l'avez dit. Le couvre-feu, c'est aussi une réalité choc. Il sera effectif ce soir à minuit. Quelles conséquences concrètes pour vos théâtres, Marc Ladrette de La Charrière ? Est-ce que vous allez proposer au public des horaires adaptés ?
D'abord, je dois dire que c'est une catastrophe pour les théâtres. Parce que les théâtres, par rapport aux autres lieux culturels, qui sont les cinémas, même par rapport aux restaurants, c'est ouvert une fois par jour. Et le soir, entre 20h30 ou 21h. Donc c'est un drame. Et il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, les acteurs de théâtre, les directeurs de théâtre, ont joué pleinement leur jeu.
Pleinement les règles. Il n'y a pas eu d'ailleurs de foyer de contamination dans un théâtre.
Il n'y a pas eu de foyer de contamination jusqu'à présent, il n'y en aura pas. Et d'ailleurs, nous sommes dans une situation totalement paradoxale, parce que les autorités sanitaires actuelles nous obligent d'ouvrir qu'un siège sur deux. Or, les gens qui vont au théâtre, il est considéré que nos théâtres sont des nids de contamination. Alors que les gens qui viennent au théâtre sont des gens qui viennent avec des transports en commun. Et on ne peut pas dire que la distanciation à l'intérieur des transports en commun soit respectée.
Vous soulignez des situations ubuesques. Vous avez l'impression
ubuesque, oui, et je compte
d'être
beaucoup
puni
sur la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour mettre fin à ce paradoxe au moment où il y aura les reprises.
Mais qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Parce que la ministre de la Culture, ce matin, dans Le Parisien, elle essaye de porter une revendication que vous portez également, c'est-à-dire un assouplissement des horaires. Très concrètement, que le ticket du spectacle permette au public de rentrer chez eux bien plus tard, au-delà de 21h. Est-ce que c'est possible?
D'une part, je pense que c'est possible, parce que Roselyne Bachelot est pour moi une guerrière.
Une guerrière. Oui.
Elle a
faut toujours qu'elle
montré...
remporte une sacrée bataille, là, quand
oui,
même.
Elle a toujours montré une force de conviction très forte. Et elle aime défendre des nobles causes, des vraies causes. Et je fais très confiance à cette guerrière pour arriver au résultat. Parce que dans la réalité, vous voyez bien que ce que nous demandons pour l'instant, c'est quelque chose de relativement simple. Nous aurions préféré naturellement 22 heures, mais nous préférons que les gens puissent partir du spectacle à 21 heures. Et vis-à-vis des autorités policières, le contrôle est extrêmement facile parce qu'ils auront, les spectateurs, les billets.
Bien sûr.
Pour l'instant, nous n'avons pas ça.
Et vous voulez que cet arbitrage, évidemment, soit remporté, mais très concrètement, vous allez malgré tout adapter Marc Ladrette de La Charrière dans vos théâtres, les horaires, mais ce n'est pas le même public, par exemple, qui va au théâtre à 20h, 21h, ou celui qui peut aller à 19h, même 18h. Vous attendez à une baisse drastique de la fréquentation?
Alors, écoutez, voilà ce que nous avons fait. D'abord, depuis que, comme vous l'avez dit, nous sommes le premier opérateur privé de spectacle en France, bien de très très loin. Et donc, depuis le début de la crise sanitaire, j'ai fait en sorte que de faire assurer la survie de nos sociétés de production et d'ouvrir nos salles aux spectateurs. Donc, nous avons deux natures, c'est ça qui est important, deux natures de spectacles. Des spectacles qui commencent, qui durent 1h20, et ces spectacles d'1h20, dans les 12 salles parisiennes que nous avons, à une exception qui est Marigny, mais j'y reviendrai si ça vous le souhaitez.
Le théâtre de Marigny, oui.
Nous allons programmer les spectacles à 18h, ce qui fait que, naturellement, les spectateurs sortiront à 19h20. Le problème qui se pose le plus, c'est pour les spectacles qui durent 2h. Alors, notamment, par exemple, la création, la seule création qui se fait à l'heure actuelle au théâtre de la Porte Saint-Martin, et qui dure 2h. Et celui-là, nous allons faire un essai. Nous allons le programmer le vendredi à 19h et faire des matinées le samedi et le dimanche.
Et là,
on verra bien.
Des tests sur une quinzaine de jours.
Ce sont des tests pendant 15 jours.
Très bien, Marc Ladrette de La Charrière, on vous entend, vous vous adaptez, mais pour venir dans les théâtres, notamment parisiens, quand on habite la banlieue et qu'il faut parfois 45 minutes pour rentrer chez soi, on va tomber sous le coup du couvre-feu.
Alors, vous avez tout à fait raison, parce que il y a deux natures de problèmes pour les spectateurs. C'est que c'est pas la même nature de spectateurs, ceux qui viennent voir un spectacle à 18h et ceux qui viennent voir un spectacle à 21h. C'est pas les mêmes franges de la société. Les gens à 18h sont plus âgés que ceux de ceux qui viennent à 21h. Il va donc faire la nécessité de l'adaptation. Deuxièmement, vous parlez des gens qui vivent dans les banlieues. Il faut savoir qu'il y a 12 millions de franciliens. Et sur les 12 millions de franciliens, il y en a 10 millions qui vivent en banlieue.
Et oui, il ne faut pas les priver d'accès au spectacle.
Il ne faut pas les priver d'accès. C'est la raison pour laquelle notre guerrière, je pense à Roselyne Bachelot...
Vous attendez pour l'instant qu'elle remporte les arbitrages. C'est en cours, dit-elle.
Doit remporter cet arbitrage qui consiste à dire laisser sortir à 21h.
Mais est-ce que c'est faisable, Marc Ladrette de La Charrière? On pense aussi quand même aux policiers qui vont devoir contrôler. Et finalement, il va y avoir beaucoup d'exceptions, d'aménagements. Vous y croyez ce matin? Vous dites que pour la survie de la culture, du secteur privé de la culture, c'est nécessaire?
C'est indispensable, parce que la culture, c'est elle est indispensable dans notre société. La culture, c'est l'épanouissement personnel des êtres humains, c'est la réponse à la violence conduit à l'intolérance, l'intolérance conduit au repli identitaire qui conduit souvent au terrorisme. Donc la culture, d'une manière très claire, c'est le ciment de notre société, c'est le socle de notre société, c'est ce qui permet l'harmonisation entre nous tous. Et donc, le plus beau des ministères, le plus beau pour moi, c'est le ministère de la Culture.
Et vous voulez qu'il soit aussi le plus efficace, hein,
oui, le plus efficace, c'est celui qui doit mettre en place l'harmonie de la société.
L'État, Marc Ladrette de La Charrière, dit qu'il n'abandonnera personne. Oui. Mais est-ce que c'est le cas du secteur privé de la culture? Le théâtre public, il est aidé par nature.
Il est aidé par nature.
Hein.
Il est aidé par nature. Il se pense d'ailleurs, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir la Comédie française au sein de Marigny. Je ne sais pas ce que va décider la Comédie française parce que c'est sa responsabilité, mais de faire ce partenariat public-privé est pour nous quelque chose d'extrêmement important et j'applaudis cet partenariat. Parce que quand vous allez au théâtre, le spectateur, il ne se pose pas la question de savoir si est-ce que je suis un spectacle public ou émanant du privé, il veut un beau spectacle. Bon, ça c'est tout à fait vrai.
Mais je veux insister sur, par exemple, les intermittents. Ils sont aidés avec l'année blanche, Marc Labrette de la Charrière. Mais que deviendront ces intermittents en juin 2021 lorsque finira l'aide de l'État? Parce qu'on sait qu'ils ont besoin des producteurs, ces intermittents.
Alors, vous soulevez un vrai problème, parce que vous soulevez le problème des artistes. Bon, il y a deux natures d'artistes. Il y a les intermittents. Mm-hmm. L'État fait son devoir, plus que son devoir, puisqu'il dépense 1 milliard d'euros pour leur permettre d'avoir leur revenu jusqu'en juin prochain. En juin prochain, que se passera-t-il? Si les petits producteurs ont disparu, eh bien, il n'y aura plus de spectacles.
Attendez, donc on a aidé les intermittents et on a oublié ceux qui vont leur donner du travail, donc des spectacles.
Oui, on les a pas vraiment oubliés, mais il y a deux natures de producteurs. Il y a les gros, les moyens, mais il y a les petits. C'est 93% de la population. Or, ces petits, c'est ceux qui ont entre 10 et 11 personnes. Et jusqu'à présent, ce qu'on leur a donné, c'est la possibilité d'avoir des prêts, mais à la condition qu'ils puissent démontrer que leurs activités reprennent. Donc malheureusement, à l'heure actuelle, ils ne peuvent rien démontrer du tout.
Des fonds propres plutôt que des prêts garantis par l'État?
Il faut effectivement, je crois que les prêts, c'est très bien, mais sur un plan général...
C'est très bien. Est-ce qu'il faut les rembourser, d'ailleurs?
Oui, il faut les rembourser.
Ah bon?
Mais sachez que qu'il y a, au niveau des pertes, environ 180-250 millions. Comme ces spectacles gagnent environ 30 millions, ils ne pourront épurer leurs pertes qu'en 2027. Donc, ils ne pourront jamais rembourser les prêts.
Donc, il faut des fonds propres.
Donc,
ils ne pourront pas rembourser les prêts, vous dites.
Ouais. Et non, ce n'est pas prévu, ça. Et moi, je pense que l'État devrait mettre en place un fonds où, à la place de faire des prêts, où il devrait mettre des fonds propres à la disposition des producteurs, des petits ou gros. Et à ce moment-là, ils seraient au moins sûrs que les prêts seraient remboursés, puisque c'est des fonds propres. Et ces fonds propres seraient évidemment remboursés par les entrepreneurs du spectacle au moment où leur sécurité financière reviendrait.
C'est une demande que vous formulez, Marc Labrette de la Charrière. On l'a dit tout à l'heure avec Mathieu, vous êtes un poids lourd du secteur de la culture, du spectacle. 200 artistes, une vingtaine de salles Paris, province, gros propriétaire de scènes privées. Vous êtes également un acteur économique avec le groupe Fimalac. Votre regard sur la situation économique, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore continuer les réformes, par exemple? Est-ce que c'est un mot qui n'a plus de raison d'être en pleine crise sanitaire?
Je pense que il faut naturellement continuer les réformes, mais les adapter. Alors, on n'est plus dans une situation de croissance, on est dans une situation de survie. Et donc,
dettes qui explosent.
Et avec des dettes qui explosent, mais ce n'est pas un problème de dette, c'est un problème d'acceptation par la société. À l'heure actuelle, la société française souhaite la survie sanitaire, la survie économique, et je pense que ça doit être la priorité du gouvernement actuel.
Merci Marc Labrette de la Charrière. Votre parole est rare, donc merci d'avoir joué le jeu, d'être venu ici ce matin
merci
sur Europe 1.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Pour la culture et le spectacle, bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Merci Sonia, 8h27.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Et j'attire votre attention sur un rendez-vous spécial sur Europe 1 dimanche soir entre 18 et 20 heures autour de Wendy Bouchard en direct du Théâtre du Rond-Point, une émission spéciale autour du secteur de la culture. On vient d'en parler dimanche soir en direct donc à 18h sur Europe 1. Dans un instant, l'info. Hélène Zélani, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1. Un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Dernière soirée avant le couvre-feu qui commence donc tout à l'heure à minuit pour 20 millions de personnes, Paris et 8 autres métropoles. Plus question de sortir à partir de 21h, sauf dérogation. Et comme au printemps, il ne faudra pas oublier son attestation, Hélène Terzian.
Oui, l'attestation sera mise en ligne dans le courant de la journée sur le site du gouvernement et du ministère de l'Intérieur. Comme pendant le confinement, il faudra la télécharger et si vous avez ni smartphone ni imprimante, vous pourrez la reproduire sur papier libre. Cette attestation, elle sera valable dans plusieurs cas. Pour raisons médicales, si vous allez à l'hôpital ou bien si vous allez acheter des médicaments. Également, si vous rendez visite à un proche en situation de dépendance. Et puis, comme au printemps, il sera toujours possible de promener son chien près de chez soi. Pour ceux qui travaillent de nuit ou qui ne peuvent pas rentrer chez eux avant 21h, il faudra doubler cette attestation d'un justificatif de l'entreprise ou d'une carte professionnelle. En revanche, si vous prenez le train ou l'avion après 21h, le billet vaudra attestation. 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans les zones concernées. En cas de non-respect de ces règles, vous devrez payer une amende de 135 € et à la troisième récidive, cela pourra aller jusqu'à une peine de prison.
Hélène Terzian, quant à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, elle souhaite un assouplissement du couvre-feu pour les cinémas et les salles de spectacle. Le billet servirait de justificatif. L'avenir des magasins bio, c'est bon devant le tribunal de commerce de Paris. Trois groupes en lice, le concurrent Biocoop, le géant de la distribution Carrefour et le groupe familial Zoari, actionnaire de Picard. Tous promettent de reprendre une bonne partie des 1000 salariés. Reconstitution tard hier soir de la disparition d'Estelle Mouzin à Guermantes. 300 policiers étaient mobilisés. Michel Fourniret, présent sur place, a confirmé ses aveux, mais sans donner plus de détails. Le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée perd une députée et risque de disparaître. L'élue du Nord, Jennifer de Temmerman, annonce donc son départ ce matin pour un autre groupe parlementaire, Liberté et Territoire. Donald Trump et Joe Biden face à face, mais sur deux chaînes de télé différentes. Le président américain et son rival démocrate se sont opposés à distance, notamment sur la gestion de l'épidémie. Et puis le foot, deux matchs de Ligue 1. Ce soir, Dijon reçoit le leader Rennes et le PSG se déplace à Nîmes. 10 joueurs parisiens sont indisponibles, blessés, suspendus, cas Covid ou encore cas contact.
Merci beaucoup Hélène Zelani. A tout de suite pour la météo.
Le 13 octobre est la journée nationale du cancer du sein métastatique.
Ce sont des mots qui font peur. Je le sais parce que j'en ai un. Les métastases, c'est quand le cancer a touché d'autres organes. On ne peut pas en guérir, mais grâce au progrès de la médecine, on peut vivre avec de plus en plus longtemps. C'est pour ça que je me bats, avec le collectif 1310 qui se mobilise pour améliorer le parcours de soins, la qualité de vie des patientes et leur maintien dans la société.
Pfizer soutient la journée nationale du cancer du sein métastatique et le collectif 1310. Pour en savoir plus, pactonco.fr de Pfizer et collectif1310.fr.
8h34 sur Europe 1, la météo avec Laurent Cabrol.
Et la météo, c'est un peu comme la vie que nous avons en ce moment. Quand il y a du bon, il faut en profiter. Il faut en profiter à fond.
Exactement.
Ça dure jamais bien longtemps. Bon, donc c'est un peu ce que nous vivons. C'est-à-dire que là, en ce moment, nous sommes dans une amélioration qui va aller, disons, lentement, mais crescendo aujourd'hui. Et avec encore quelques pluies dans l'Est, Lorraine, Alsace, Mâconnais, Auvergne, Rhône-Alpes, ces pluies vont disparaître petit à petit. Et demain, nous aurons une journée presque ensoleillée, et en tout cas très agréable, faut bien le dire. Les températures vont commencer un petit peu à monter, et puis c'est un dimanche et lundi seront des journées franchement ensoleillées, franchement agréables. Donc voilà, ça c'est ce dont il faut profiter. Ensuite, eh bien, ça va un petit peu changer à partir de mardi, puisque une perturbation va arriver, et nous allons vivre donc à cette cadence. Tout à l'heure, je vous parlais des vacances de la Toussaint, en disant je n'ose pas m'avancer, je n'ose pas dire ce qu'il en sera, etc. Pour l'instant, je veux dire un petit secret à nos amis, ça, et on semble que l'on va rester sur le rythme qui est le nôtre actuel. C'est-à-dire que 3 jours de beau temps, 5 jours de mauvais temps, 3 jours de beau temps ou 4 jours de mauvais temps. Voilà, ça semble se diriger comme ça pendant les jusque-là, tout ça. Quoi.
Il y a de la prudence, mais on va quand même garder l'enregistrement. Ok, Laurent. Merci Laurent Cabrol, il est 8h35 sur Europe 1. Dans un instant, on prend soin les uns des autres. Et tiens, pour ceux qui avaient l'habitude de faire du sport après le travail et qui sont empêchés par ce couvre-feu, on va vous donner quelques conseils pour faire du sport à la maison. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h37 sur Europe 1. Juste après 8h30 tous les matins, on retrouve le docteur Jimmy Mohamed, notre santé. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous allez nous parler ce matin d'une étude qui montre que faire des étirements au niveau des jambes, je commence, serait bénéfique pour notre santé. Attendez, on parle des étirements classiques ?
Eh oui, tout simplement les étirements classiques, ceux qu'on peut faire lorsqu'on fait un peu de sport, qui permet parfois de réduire les crampes. Eh bien, ça pourrait protéger vos artères, votre cœur et même vos cerveaux. C'est une étude passionnante dans laquelle on a pris deux groupes de personnes. Dans un premier groupe, on leur a demandé de faire ce que vous faites, Mathieu, c'est-à-dire rien, pas de sport, pas d'étirement. Dans l'autre groupe, on leur a demandé de s'étirer. Alors écoutez bien parce que c'est incroyable. 4 types d'étirements, seulement 4. 5 fois par semaine, pendant 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Chaque étirement devait durer 45 secondes avec 15 secondes de repos. Donc vous voyez, c'est accessible à tout le monde et très facilement. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les groupes de personnes qui s'est étirées, eh bien, ils avaient une meilleure circulation sanguine au niveau des artères qui sont moins rigides. Et on s'est rendu compte que le groupe qui s'est étiré avait une meilleure tension artérielle par rapport au début du programme. Et plus intéressant encore, on s'est rendu compte que la contraction musculaire avait un impact direct sur les artères. Ça va délivrer des messages chimiques qui vont aussi avoir un impact sur les artères des membres supérieurs. C'est-à-dire les artères que vous n'avez pas sollicitées vont aller mieux. Les auteurs suggèrent aussi que, étant donné que vous avez un meilleur flux sanguin au niveau des artères, eh bien, vous diminuez votre risque d'AVC, d'infarctus, et donc ce serait bon pour votre cœur et votre cerveau, d'autant plus que ce programme pourrait être applicable aux personnes qui sont en situation de surpoids, d'obésité, qui ont parfois du mal à faire de l'activité physique si jamais ils ont des articulations douloureuses. Donc un programme que même vous, Mathieu, vous pourrez appliquer.
Eh ben écoutez, je vais essayer, surtout que les étirements, c'est quand même pas ce qu'on a de plus difficile si on peut avoir tous ces bénéfices avec un simple étirement. En plus, Jimmy, on peut le dire, on en parlait dans le journal de 8h, avec cette période un peu particulière, le stress peut avoir un impact sur notre santé.
Bah oui, parce que ce qu'on sait, c'est que lorsque le cerveau fait face à une situation de stress, il a deux systèmes qu'il va mettre en jeu pour s'adapter. Le premier, c'est un système où vous allez sécréter de l'adrénaline et de la noradrénaline. C'est ce qui va vous préparer à une réponse physique. C'est ce qu'on appelle le fight or flight. C'est fuir ou combattre. Deuxième système, ça il est normal et c'est pour s'adapter. Le deuxième système, c'est un système endocrinien qui est un peu plus lent, où vous allez sécréter du cortisol. Sauf que le cortisol en grande quantité, notamment en cette période où on va être un peu dans une situation d'angoisse permanente, va entraîner des agents neurotoxiques qui vont avoir un impact direct sur votre système immunitaire, sur votre cerveau et même sur votre cœur. Et puis, au niveau du comportement, on sait que ça va vous rendre un peu plus irritable, de la nervosité et des troubles du sommeil. Donc, il va falloir s'adapter à ça. Et si vous êtes gentil, Mathieu, la semaine prochaine, je vous dirai justement comment faire face à tout ce stress.
Eh bien, écoutez, je prends rendez-vous avec le docteur Jimmy Mohamed. Je prends rendez-vous pour la semaine prochaine le matin, parce que sinon, c'est sans rendez-vous l'émission Santé d'Europe 1 de 15h à 16h tous les après-midi, 8h40. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et Fanny, vous nous dites ce matin que les micro-algues pourraient devenir les futurs camarades de jeu des élèves dans les cours d'école.
Alors
c'est,
oui,
c'est la montée des eaux le problème.
C'est pas vraiment ça. Il y a déjà des micro-algues dans les cours des écoles. C'est déjà le cas à l'école Victor Hugo à Poissy dans les Yvelines. De bien étranges micro-organismes sont venus s'inviter effectivement à la récréation pour améliorer la qualité de l'air sur le périmètre de jeu des enfants. Des algues ont une action de dépollution de l'air et viennent séquestrer les particules, mais aussi viennent absorber le CO2 pour fournir aux petits de l'air plus oxygéné et plus pur. Une innovation pratique qui se présente comme un grand pylône et qui permet un gain de place énorme. Sachez que pour absorber une tonne de CO2 par an, il faut en moyenne 100 arbres. Eh bien, les micro-algues, elles, font le même travail sur 1 mètre carré seulement. Alors, au lieu de transformer les cours d'école en forêt, eh bien, les chercheurs ont pensé à cette solution plus compactée.
Pour réussir ce pari technologique, les chercheurs se sont basés sur un phénomène naturel que l'on appelle les puits de carbone.
Oui, vous le savez, sur la planète, il y a différents puits de carbone, c'est-à-dire des grands compartiments qui vont stocker le carbone présent dans l'air. Ces principaux puits de carbone sont les sols, les forêts et les océans. Et dans les océans, c'est le phytoplancton qui a l'action la plus performante en termes d'emprisonnement du CO2 et de relargage d'oxygène. Ces petites algues qui dérivent dans les mers jouent un rôle majeur à grande échelle. Pour nous les humains, ça vous donne une idée, une respiration sur deux, nous la devons aux océans et à ces organismes planctoniques. Ce sont ces algues qui fabriquent en fait l'air que nous respirons. Alors pourquoi pas les avoir à plus petite échelle jusque dans la cour de l'école et même dans la cour des grands, puisque des entreprises et des sites industriels se munissent aujourd'hui de ce genre d'outils.
S'inspirer du plancton, c'est du biomimétisme en fait.
Bah oui, c'est ça. La nature, c'est plus de 4 milliards d'années de recherche et développement. Hein. On a un petit retard quand même face à elle. Donc, s'inspirer de la nature pour mieux vivre et gagner en efficience, c'est la clé de voûte. La clé de voûte pour toutes les nouvelles technologies qui veulent s'inscrire dans le processus de récupération-transformation qui régit absolument tous les écosystèmes. Et c'est une bonne nouvelle car de plus en plus, l'inventivité humaine va piocher dans ce réservoir inépuisable de bonnes idées.
Merci Fanny Agostini, notre planète sur Europe 1, c'est tous les matins. Il est 8h42, vous restez bien sur Europe 1, bien sûr, avant de retrouver Philippe Vandel à 9h. Vous le savez, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent, c'est l'heure de la revue de presse.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
presque de l'info. C'est la revue presque de Nicolas Cantlou. Ils sont encore dans le studio Sonia Mabrouk et son invité Marc Ladret de la Charrière.
Oui, mon invité Marc Ladret de la Charrière, milliardaire et surtout grand acteur du spectacle, grand propriétaire de salles de spectacle et producteur. Comment vivez-vous cette crise du couvre-feu ?
Alors, Madame Mabrouk, il y a, il faut le savoir, deux sortes de nous produisons bien sûr des spectacles. Il y a deux sortes de producteurs. Il y a les petits producteurs, il y a les gros producteurs, bien sûr. Il y a aussi bon, les moyens producteurs. Il y a deux sortes, les moyens, les moyens plus. Bon, il y a les très, très gros, hein, ceux qui possèdent des salles. Il y a aussi, bien sûr, les producteurs qui n'en ont pas de salles, de spectacles. Oui, parce qu'il y a deux sortes de salles de spectacles. Il y a les petites salles, hein, les moyennes, les grosses, les très grosses, hein, les zéniths. Et voilà. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une guerrière, hein, notre ministre, parce qu'elle a l'impact, elle a du poids. Voilà. Parce que vous savez, il y a deux sortes de ministres. Il y a les petits ministres, il y a les gros, les moyens. Bon, ouais. Alors, dans nos théâtres, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un précaré, les théâtres. Vous savez, toutes les études le disent, il n'y a pas de contamination. Les gens dans nos théâtres n'ont pas le Covid. Le problème, c'est qu'ils viennent, ils viennent en métro. Et là, ils attrapent le Covid. Mais dans nos salles, non, ils n'ont pas. Par contre, c'est ubuesque. Ils repartent et là ils réattrapent le Covid. Ils viennent mais t'es con ou quoi? Tu dis qu'ils font venir dans tes théâtres et tu dis qu'ils chopent avant et qu'ils chopent après. C'est tumulte, effectivement. Oui, parce que vous avez raison. Parce que vous savez, il y a deux sortes de spectateurs. Il y a les petits, les moyens, il y a les malades. Non, pas les malades, non, on n'a pas des. Oui, en tout cas, il y a deux sortes de conneries, les petites et les grosses. À vous, Julie.
Merci à tous les deux.
Oui, merci, Julie. On rappelle que Marc-André Lacharrière, l'André Lacharrière, est aussi actionnaire d'Europe 1, ouais. Donc pas sûr qu'on soit là l'année prochaine. On va repartir en tournée dans des salles vides.
Ouais. Il nous écoute tous les matins.
À vous, Julie. On est courageux quand même.
Bon, ben Mathieu, vous avez la parole, continuez alors.
Oui, ma chère Julie, pardon, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Bienvenue sur Europe 1 pour cette dernière chronique. Et ce matin, l'actualité, c'est qu'on va, retourner sur la Lune. Et oui, en même temps, bon, en ce moment, la vie sur Terre, elle est tellement pourrie que la Lune, franchement, ça devient alléchant. On peut aller aux champignons sur la Lune. Et oui, on est très champignons ce matin sur Europe 1. Très champignons, bref, le couvre-feu débute ce soir en grande métropole. Et on va surtout pouvoir travailler principalement, mais c'est vrai que... Oh, non, monsieur Béliard, mais même pas. Vous êtes, ça me fait plaisir, vous êtes mignon, vous êtes plein d'illusions, mon pauvre ami. À Marseille, on va pas avoir assez de temps pour travailler, vu qu'on se lève vers 14h et 14h15, et qu'à 17h, c'est l'apéro. On ne peut pas faire vivre une économie avec juste 3 heures de temps devant nous. Non, je le dis, malheureusement, on va tous crever, monsieur Béliard. Merci Jean-Claude Godin pour cet enthousiasme, cet optimisme citoyen marseillais pour cette analyse. En tout cas, un des principaux reproches que l'on fait au gouvernement, ce n'est pas avoir augmenté le nombre de lits de réanimation et d'avoir dégoûté le personnel hospitalier. 40% des infirmiers veulent changer de métier. N'est-ce pas, Michel Simès, vous êtes notre grand témoin.
Effectivement, mon cher Mathieu, ma chère Adriana Leclerc, 40% des infirmiers veulent changer de métier. Comme beaucoup de soignants, puisque moi-même, je suis passé de médecin à raconteur de blagues de sgeg sur les plateaux télé. Et oui, 40% des soignants voudraient se reconvertir et devenir certainement ouvriers qui fabriquent des iPhones dans une usine chinoise, constructeurs de stades au Qatar, bref, des métiers où ils sont mieux considérés que nos infirmiers.
Allez, merci à tous. On va accueillir maintenant Jean Castex. Il donnait hier des précisions sur l'application du couvre-feu. Il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Premier ministre. Ah, donc, bonjour. Donc, vous confirmez la nouvelle de la matinée, c'est toujours moi donc, qui suis Premier ministre.
On confirme, oui.
On en est sûr. Écoutez, j'en prends note sur mon cas Le Pen. Voilà, c'est quand même la principale information. Je reste en poste. Donc, je préviens, pardonnez-moi, attendez, je prends mon iPhone. J'envoie un petit message à Non, je, non, c'est à moi dans les choses. Pardonnez-moi, excusez-moi. Bah alors... je préviens mon papy et ma mamie que je ne pourrai pas venir en vacances à la Toussaint. Puisque je suis en poste, je n'aurai pas beaucoup de vacances.
Voilà. Alors, monsieur Castex, encore une fois, ce sont les restaurants, les bars, les théâtres, les cinémas qui trinquent. Hein.
Écoutez, nous devons protéger nos malades avant toute chose. C'est la priorité, car à chaque fois que vous allez au restaurant, sachez-le, vous tuez un vieux. Chaque fondant au chocolat, c'est une grand-mère qu'on intube. Chaque fois,
c'est du délire ce matin.
Dites-le vous bien, chaque fois que vous pouvez une petite mousse, comme on dit dans mon village, une bière, vous l'avez compris, que vous la buvez sans scrupule, vous mettez en coma artificiel un de vos vieux oncles de province. Et je pose la question à nos compatriotes, est-ce que c'est cela qu'ils souhaitent ?
Bon, écoutez, mais pourquoi vous n'avez pas augmenté les capacités hospitalières ? Parce que c'est quand même ça le nœud du problème.
Écoutez, j'entends beaucoup de gens me suggérer cette solution. Or, former un médecin ou une infirmière, vous l'avez compris, ça prend du temps.
Mais il y a des milliers d'infirmières formées qui refusent les conditions de travail de l'hôpital public. Vous améliorez les conditions et le personnel formé est déjà là.
Oui, mais écoutez, cette solution coûterait un argent que nous n'avons pas. Alors, plutôt que de ruiner le pays en améliorant l'hôpital, je prends témoin, monsieur Mourad, nous préférons ruiner le pays en détruisant le tourisme, en ravageant la culture.
Bah oui.
Parce qu'il y a deux types de spectacles.
Non, c'est bon là.
En flinguant la restauration et en bousillant l'événementiel et en niquant le cinéma. Voilà le projet pour notre beau pays.
C'est bon. Merci, monsieur le Premier ministre. Le couvre-feu entre donc en vigueur ce week-end et on va tous être obligés de. Hein. Ah, on a un coup de fil, on dirait, hein.
Allô, le commissariat, n'est-ce pas, vous joindre là. Je m'appelle Jean-Marie Dupont, n'est-ce pas. Je suis un citoyen français respectueux des lois. Soit je voudrais appeler pour dénoncer une personne que j'ai vue hier soir, n'est-ce pas, sortir à 21h32.
Mais attendez.
J'ai son signalement, à qui dois-je le donner?
Non mais monsieur Le Pen, vous n'êtes pas du tout au commissariat, c'est Europe 1 ici. Europe 1.
Pardon ?
Oui, Europe.
Oula ! Ah pardon, je vais... c'est pas l'eau. Non, j'ai fait une erreur de numéro, n'est-ce pas ? Et j'ai compris, pardon, j'ai dû sauter une ligne dans le répertoire.
Mon enfant, on n'est pas proche commissariat, Europe 1.
Oui, il y a commissariat, et oui, dessous, il y a marqué Couillon. Donc c'est vous, c'est
ah,
ça.
Ah, Couillon, c'est nous. Ah bah merci, oui, merci beaucoup.
En tout cas, cette période de couvre-feu, c'est Madame Leclerc, je vous reconnais, à l'intonation de votre voix.
Bah très bien, ça fait des années que ça dure, donc
oui,
c'est bon.
Oui,
ça
fait... Et cette période de couvre-feu me fait revivre ma folle jeunesse lorsque je regardais par la fenêtre et que je téléphonais pour signaler les comportements des mauvais Français.
Oh là là, oh là là.
Ce couvre-feu, quelle nostalgie quelque part, un temps où les coupes de cheveux étaient strictes et bien taillées. Je me sens de nouveau quelque part avoir 20 ans, n'est-ce pas ? Et nous avons... Oula, un maghrébin sans masque. Je vous laisse, Mme Julie, j'ai un coup de fil à passer.
Oh, écoutez... Bon, allez, c'est bon, merci. Le couvre-feu va faire souffrir un certain nombre de secteurs. On en parle avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Bétou, Vandel et consorts. Bonjour à oui, vos aimables sous-fifs. Écoutez, il n'y a pas de débat. Ce couvre-feu est nécessaire et j'espère que les Français ne le respecteront pas.
Attendez, je ne comprends pas. Non, vous ne l'auriez pas mis en place, vous ?
Mais si, bien sûr, pourquoi ?
Mais non, mais vous venez de dire que vous espériez que les Français ne le respectent pas.
Oui, mais regardez la règle du jeu. Il y a une amende de 135 euros en cas de non-respect du couvre-feu. Oui. Et 1500 euros en cas de récidive.
Bah oui, oui.
Hein, à 3 ou 4 infractions par semaine, on va se gaver.
Non.
Ah ben
sympa.
Si. Ah ben on va grave se refaire la cerise. Alors allez-y les gars, donnez tout, soyez des rebelles. Je le dis, sortez à 21h03, faites la teuf jusqu'à 21h10, voire même une nuit blanche jusqu'à 22h15.
Waouh, de grosses soirées en perspective, hein.
Mais quoi, vous moquez, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai jamais fait la fête passer 22 heures. Tu sais, quand on a le job que j'ai à 19h30, je suis claqué. Mais mes amis aussi, vous savez, on a plus 20 ans, on peut plus se coucher à des 23h, 23h10 après s'être torché la gueule au champomis. Bref, on n'est pas là pour parler de ma jeunesse de patachon. Françaises, Français, éclatez-vous, soyez des azous et aidez votre pays à rembourser ses dettes.
Merci, monsieur le maire, merci. Allez, un mot de musique maintenant. C'est aujourd'hui que sort le nouvel album de Francis Cabrel, un album produit en studio dans le village d'Astafort. Bonjour Francis.
Ah bonjour petite Julie. Toi qui vis dans ta ville de poussière, avec le couvre-feu où tu dois te coucher à la même heure que les cailloux et te lever à la même heure que les nonnes dans les maisons de pierre. Oui,
oh,
j'ai un nouvel album qu'on peut donc écouter en cassette ou en laserdisc.
Attendez, non, ça n'existe plus les cassettes là et les CD, les laserdisques.
Comment ça Mais alors comment tu écoutes la musique alors sur un gramophone couvert de poussière?
Mais non, en streaming sur votre téléphone.
En string sur mon téléphone. Attendez, je vais essayer de vous le faire écouter alors. Je suis pas sûr que la qualité soit géniale. Je sais pas si la qualité est géniale. C'est peut-être parce que aussi je suis pas en string là. Hein.
Oui bon bah ça c'est bon. Alors Francis, vous étiez à Paris là, mais vous êtes déjà reparti.
Ah ben tu sais, tous les 5 ans, tu m'entends Julie?
Oui bien sûr.
Oui, tous les
5
ans, je passe 48 heures dans la capitale.
Ah bon, tous les 5 ans, oui.
La première journée, je déprime, la seconde, je tente de mettre fin à mes jours. Et la troisième, on me rapatrie en urgence dans Lot-et-Garonne, à Stafford.
Alors c'est vrai, vous avez écrit et réalisé cet album chez vous, Francis?
Ah oui, vraiment chez moi, oui. C'est un album bio. Avec uniquement des thèmes qui ont poussé, tu vois, à 50 mètres de la grange. C'est un album garanti sans sulfate, sans néonicotinoïdes.
Alors dites-nous, comment va la vie à Stafford? Pas trop dur ce couvre-feu?
Non, tu vois, Non, pas vraiment dur. Non, on avait anticipé la fermeture des bars, puisque le dernier bar d'Astafort a fermé au mois de septembre 1974. du coup, ça nous fait pas un gros changement. Tu vois. Ah, là, vous entendez mieux, là?
Ah oui, on entend, ouais.
Ça doit être parce que j'ai enlevé mon pantalon.
Oh non.
Je trouve que la qualité du laserdisc était mieux quand même.
Je suis sûr, un jour j'ai croisé une guitare.
Et voilà.
Bravo Nicolas Canteloup et Julie. Et en plus, on a droit au nouveau Francis Cabrel. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Merci Nicolas Canteloup. Et bravo aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Philippe Vandel est avec nous.
Mais oui, bonjour.
Culture Média, 9h-11h, la matinée continue.
Bonjour Mathieu. Bonjour, notre infomédia du jour, c'est 3 numéros spéciaux d'enquête exclusive à l'occasion de la présidentielle américaine. 3 dimanches de suite, c'est une première. On sera avec le présentateur emblématique Bernard de la Villardière. Et puis, une série policière sous forme de comédie musicale, ça existe. Après 7 ans de diffusion, Les Petits Meurtre d'Agatha Christie termine sa saison 2 ce soir entre chant et danse. On sera avec l'actrice Elodie Frink et la productrice Sophie Reville. Et puis le dessinateur Zep, le papa de Titeuf, il ressort le guide du zizi sexuel qui s'était déjà vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires dans le monde. Première édition, c'était il y a 19 ans en 2001. Entre-temps, le monde a changé, on va vous le raconter.
Oh joli, Philippe Vandel, oui, c'est un énorme succès, le guide du zizi sexuel, évidemment, j'arrivais même plus à le dire. Merci Philippe, Culture Média, 9h-11h, la matinée continue. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller tout ce week-end, samedi et dimanche. Je reviens d'un lit lundi matin, en direct, dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.